Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va parler d'Ubisoft Plus, Premium et Classique. On a aussi des informations sur Palworld et même des premières impressions sur son Early Access, ce jeu qui nous a fascinés à toutes ses présentations dans les années précédentes. Et bien sûr, Prince of Persia, The Lost Crown, qui défraye la chronique ces derniers jours. Un jeu réussi pour Ubisoft. Ça change les choses, c'est pas mal. Et on est tout de suite parti dans le rendez-vous jeu. Et oui, Patrick part dans la provoque, un jeu réussi, ça change les choses, je me le permets. Parce
je le
que
prends je... comme une attaque personnelle, Patrick.
Mais c'est ça, il y a Thomas, j'ai regardé Thomas Mereur à Maëbi qui est avec nous, droit dans les yeux de l'écran, en le disant. J'ai dit, ah, voilà, je fais de la provoque, c'était très bien. Mais c'est vrai qu'il est plutôt réussi et tu vas pouvoir nous en parler. Comment ça va, Thomas ?
Eh bien, ça va très bien. Bonjour, merci de m'accueillir. Salut JK, et puis bonne année à vous deux et à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Très content de commencer 2024 avec vous, et puis surtout avec ce Prince of Persia s'il a réussi. Ouais.
Oui, on fait du teasing. Vous allez voir, les infos, je pense que vous êtes au courant, c'est difficile de passer à côté. Il est plutôt bien reçu. On a à la place de JK un hacker étrange qui s'est camouflé dans sa cave pleine d'écrans verts. Comment ça va, monsieur le hacker étrange ?
Donnez-moi votre numéro de carte bleue tout de suite, sinon je pirate le Pentagone.
C'était magnifique, entrée en matière. Oui, alors en plus ceux qui écoutent en audio ne vont pas comprendre.
Donc, effectivement, aucune idée de ce dont ils sont.
Un peu de contexte, j'ai mis un fond d'écran en repère de hacker sur Discord, un truc bien, bien kitsch. Et du coup, en plus aujourd'hui j'avais un hoodie noir, donc je porte une capuche tel un Watch Dogs, tel un personnage de Watch Dogs. Voilà, mais sinon à part ça, tout va bien. Content de revenir, hein, parce que ça y est, c'est la nouvelle année, c'est la reprise.
Ah oui.
Surtout que le dernier numéro que j'étais censé faire, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau. Enfin, bec dans l'eau, non, je me suis retrouvé, tu te souviens, le numéro où j'étais censé être là et finalement non.
Oui, donc, tout à fait. Mais il y a eu depuis l'épisode GOTY et l'épisode Perspective de 2024, jeu de 2024. Donc tu étais présent quand même, malgré tout.
Ouais, voilà. Tu vois. Avec un léger différé, mais content de revenir, en tout cas, en direct, en tout cas, pour commenter l'actu.
Bah, content de vous avoir tous les deux. Moi, je suis content de revenir aussi.
Parce que j'ai trop chaud.
Ouais, ça y est, c'est fini. Le hacker disparaît, mais tu peux même changer ton fond d'écran. Mais les petits champignons rigolos que tu avais tout à l'heure, ça correspond plus. Moi, je suis content de revenir aussi. Il fait très froid ici. D'ailleurs, le bonus de la newsletter de la semaine dernière, comme je le disais dans le rendez-vous tech, la crème pour les mains, bah, elle m'est bien utile, figurez-vous. Ça n'était pas utile.
Et je confirme que qu'elle est très bien. Je l'avais utilisée à une époque.
Ah, tu la connais.
Les mains très avivées. Ouais, la Eta World Elisabeth Arnen, ouais.
Voilà, il y a la caution de deux podcasteurs et journalistes de talent, donc vous pouvez nous faire confiance. La 8 Hour Cream de Elisabeth Arden, ce n'est pas sponsorisé, on le pense vraiment. Ceci dit, si Elisabeth Arden veut sponsoriser l'émission, Lise, envoie-moi un mail, c'est toujours possible de s'arranger. Et je dois dire que la neige, bah, ça continue, là c'est tellement le foutoir ici, il a fait moins 20 hier, je suis sorti, il faisait... mon iPhone me disait qu'il faisait moins 7, je me suis dit, oh, ça va, c'est bon, c'est l'été, il faisait moins 20 et j'ai pas de chauffage dans la voiture. C'était le bonheur pour amener les enfants à la crèche. Merveilleux. En parlant de communication passée, merci beaucoup pour vos réactions à cet édito que j'ai publié le week-end, qui parlait de sujets qui n'étaient pas forcément faciles, mais vos réactions ont été assez positives, même très positives, et constructives quand il y avait des critiques à faire ou des remarques à noter. Donc un grand merci à vous tous. Je parlais de la ligne éditoriale de l'émission, de la manière dont j'approche les sujets sociétaux, slash un peu politique, on en a même dans le rendez-vous jeu parfois. Donc merci de l'avoir écouté, merci d'avoir commenté et on continue avec les corrections nécessaires sur la bonne ligne. J'apprécie vos réactions et puis la philosophie que je suis, j'espère, vous conviendra en essayant de... Le maître mot, c'est la mesure et donc l'analyse raisonnée et contextualisée des sujets sans sans forcément, sans toujours céder à l'émotion ou à cet absolutisme internetien, cette AI, vous savez, IA, AI, c'est marrant parce que c'est dans l'air du temps, cet absolutisme internetien qui ne me convient pas trop. Donc voilà, je continue sur cette voie. Et ceux qui me soutiennent, notamment sur cette voie, je les remercie très chaleureusement, comme Axis, qui est un nouveau patriote sur patreon.com/rdvjeux. Un grand, grand merci à Axis et un grand merci aux producteurs de cet épisode, Lancelot Davizard et Steph Sinalco. Merci à vous tous, merci à vous toutes de soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Est-ce que j'ai dit tech ou jeu ? Bon, c'est jeu, le lien est dans les notes de l'émission de toute façon. Je vous propose qu'on se lance tout de suite dans... Non, c'est pas celle-là, zut. C'est celle-là, les news à retenir. Avec une première news qui n'est pas... Alors, je vais être honnête hein, avec vous. Il n'y a pas forcément les plus grosses news révolutionnaires de l'histoire du jeu vidéo cette semaine. Donc, on a choisi celles qui étaient là et qui sont quand même intéressantes à traiter, hein, sinon on n'en parlerait pas du tout. Mais du coup, la première, c'est l'annonce d'Ubisoft du changement de son... service d'abonnement Ubisoft Plus avec une division en Ubisoft Plus Premium qui est le service existant qui existait jusqu'à maintenant qui inclut absolument tous les jeux en version Premium, en Early Access, etc. Et une nouvelle version qui s'appelle Ubisoft Plus Classique qui est disponible sur PC et sur PlayStation, au travers de l'abonnement PlayStation Plus Premium Extra Plus, qui existait déjà. Mais donc ça, c'est une version back catalogue. En gros, on a accès aux jeux qui ont été déjà publiés il y a, on va dire, 6 mois, 1 an, des jeux qui ne sont pas les tout derniers qui viennent d'arriver. Le prix est quand même... La facture est un peu salée pour l'Ubisoft
ça
Premium.
Pique un peu.
Oui, ça pique un peu. On est à $18 pour les prix américains. J'imagine que ça se traduit par 18 €, quelque chose comme ça chez nous. Pour le classique, on est à $8 seulement, donc c'est beaucoup plus raisonnable. Et on a des jeux comme Rainbow Six Siege, Far Cry 6, etc., etc. C'est des jeux de catalogue. Tous les Assassin's Creed, tous les Lapins Crétins, enfin tout ça, tout ça. C'est un move que je trouve intéressant. Il y a une belle interview, enfin une interview de, sur gamingindustry.biz, une interview d'un monsieur qui s'appelle, comment il s'appelle ? Pierre Tremblay, qui est le directeur des abonnements chez Ubisoft, qui est donc, bon, c'est la communication d'Ubisoft, ils ont fait une interview, je connais bien ses plans de communication et marketing, mais ça nous éclaire quand même sur la position d'Ubisoft. Et ce que ça dit, à mon sens, c'est que ces services d'abonnement... Alors, Ubisoft a l'habitude d'être présent un petit peu partout, sur toutes les plateformes. Ils sont sur toutes les plateformes qui se lancent, ils soutiennent tout, même la Wii. Hein, ils avaient développé Zombie U, vous vous souvenez ? Enfin, la Wii U, j'entends. Ils avaient développé Zombie U, qui était un jeu exclusif. Hein. Il n'y a que pour être vraiment partout. Mais ils sont vraiment partout. Et ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont des abonnés à ces services, qu'ils les voient comme la possibilité de toucher des joueurs qui ne jouent pas à des jeux Ubisoft avant. Ils disent que 10% des abonnés n'ont jamais joué à des jeux Ubisoft, ou en tout cas n'ont pas joué à des jeux Ubisoft en se connectant au service Ubisoft. Ils disent qu'ils ont eu des millions d'abonnés depuis le lancement du programme il y a 4 ans. Alors, des millions, ça peut être 2 millions. Hein. Ils disent des millions d'abonnés sur 4 ans. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais en tout cas, ils croient au service. Et puis, ils font des réflexions intéressantes sur le streaming aussi. Ils disent que ça prend quand même plus longtemps qu'on ne pensait, mais on est en chemin, ça continue. Nvidia, c'est très bien, par exemple, etc. Et ils croient évidemment au streaming, puisqu'ils ont acquis les droits de streaming des jeux Microsoft dans le cadre du deal avec la CMA, etc. Vous vous en souvenez ? Et puis ils ont un petit chapitre sur, enfin une petite discussion sur la possession des jeux, le fait qu'on les possède ou pas, qu'on les loue ou pas dans les abonnements, etc. Dont on pourra peut-être discuter. Est-ce que ça vous surprend, Thomas, t'es un petit peu le spécialiste Ubisoft du panel aujourd'hui, ça te surprend qu'Ubisoft pousse encore l'abonnement ? La raison pour laquelle je pose cette question et je le présente de cette manière, c'est que oui, le Game Pass est quand même assez prévalent encore aujourd'hui, mais c'est vraiment une volonté commerciale de pousser et un moyen pour Microsoft de prendre de la part de marché plus que peut-être c'est l'impression qu'on a, vraiment un produit qui leur fait beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, bah, on a l'impression que les abonnements sont pas... Tout le monde en a marre des multiplications d'abonnements. PlayStation, ils n'ont pas l'air de pousser leur PlayStation Plus à fond depuis la refonte. Ubisoft, bah, le Ubisoft Plus, il était là, mais on n'avait pas l'impression qu'ils communiquaient dessus à fond. Est-ce que c'est surprenant qu'ils continuent à le pousser, là, le retravailler ?
Bah, ce que je trouve surprenant, surtout, c'est effectivement d'aller vers une offre premium aussi chère. Enfin, quand même, globalement, c'est comme tu le dis, si t'as déjà une PS5, si t'as déjà une Xbox, t'as probablement ton abonnement déjà en parallèle sur ton PlayStation Plus ou ton Game Pass. D'imaginer te prendre encore un abonnement Ubisoft à 18 balles... pour quand même un catalogue qui est un peu moins dingue, en tout cas en nouveauté. Enfin, c'est un attrait pour aller vers les nouveaux jeux, et ils n'ont quand même pas un rythme de sortie qui est ouf. Même si, je pense, oui, si tu achètes 2 AAA Ubisoft par an, tu rentres presque dans tes frais, entre guillemets.
Mais presque.
Moi, j'ai même vu des personnes, comme j'ai un peu parlé de Prince of Persia sur Blue Sky ou sur Twitter, il y a des gens qui me disaient « Ah, je vais prendre l'abonnement Ubisoft pour quelques semaines, le temps de faire Prince of Persia, puis après, je me désabonnerai. » Donc, effectivement, ce sera peut-être un accès un peu filou pour aller vers ces jeux-là.
Mais ce dont ils parlent d'ailleurs dans l'interview, cher, surtout, hein. ils disent dans l'interview, oui, il y a des gens qui s'abonnent un petit peu, qui s'arrêtent. Enfin, on est tout à fait conscient que c'est que ça se passe parfois comme ça, quoi.
Bah clairement, moi, je me souviens, pour Apple Arcade, par exemple, typiquement, à l'époque quand j'étais chez Gamekult où je faisais beaucoup de jeux mobiles, ça m'arrivait de prendre l'abonnement de manière très très temporaire. Où je sais qu'il y a des gens qui le prennent genre pour les vacances simplement, pour se dire bah voilà, j'ai 2 mois de vacances devant moi, je vais m'abonner à tel service, bourriner les jeux que j'ai pas pu faire. C'est presque à double tranchant d'ailleurs dans un sens, parce qu'effectivement tu peux te dire bah de toute façon les jeux Ubisoft je vais peut-être attendre et je vais m'enquiller d'un coup Avatar, Mirage, etc. et juste du coup payer 20 balles alors que t'aurais pu dépenser 120 euros pour les avoir Day One. Donc c'est bon, ils ont quand même pas un catalogue de... Ils parient, et surtout là, depuis quelques années, ils se sont restreints un peu de licences. Je ne sais pas si... est-ce que l'attrait est suffisant pour aller là-dessus. Surtout, voilà, comme on disait, avec la multiplication des abonnements à tous les services dans tous les sens, etc. Et quid en plus de Assassin's Creed, où il y avait des rumeurs sur est-ce que Infinity serait pas une offre sur abonnement également. Bon, voilà, donc ça pose toutes ces questions-là. Ouais. Oui, j'ai réussi à placer Assassin's Creed, évidemment, bien sûr.
Oh, non, mais évidemment, et ça sera pas là. Il faudrait un compteur, tu sais, pling, combien de fois il va dire Assassin's Creed dans cette émission.
Oui, alors attention chez vous, par contre, si vous prononcez 3 fois, c'est ma blague préférée, si vous prononcez 3 fois Assassin's Creed en vous regardant dans un miroir, j'apparais automatiquement. Donc faites attention quand même, on sait jamais, quoi.
Faut faire gaffe, faut le savoir. JK, Ubisoft Plus, pareil, enfin, je suis un peu perplexe, hein, mais...
Même analyse que globalement que Thomas. Après, en plus, ce qu'il faudrait pour qu'ils aient de la rétention en Ubisoft, c'est qu'ils aient un vrai jeu service qui accroche les gens. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Ils ont eu des jeux, ils ont eu un Rainbow Six, ils ont eu peut-être à l'époque un For Honor, tu vois, qui c'était des jeux qui
étaient
pendant
un an. The Division également à l'époque. Ouais.
The Division, voilà, mais c'est des jeux qui ont plus évidemment la hype qu'il y a eu à l'époque. Et voilà. Après, moi, j'ai toujours un problème avec les offres d'abonnement qui concernent qu'un seul éditeur, parce qu'effectivement, t'es limité au catalogue. IF faisait la même chose, mais à un prix beaucoup. Je crois que IF, c'est quoi, c'est 5 ou 6 euros par mois, je sais plus. Mais
c'est un peu plus, mais oui, c'est enfin, il y a deux offres aussi.
Je crois que c'est 10 euros au maximum. IF Play, tu vois. Bon, alors c'est quand même autre chose. Et quand tu vois à côté un Game Pass qui est sur PC et qui est à 10 euros par mois et qui inclut très souvent des jeux Ubisoft, hein, on rappelle, même si c'est pas forcément des nouveautés. Je crois qu'il y a Far Cry 6 qui est arrivé pas longtemps, il me semble.
Ouais, Valhalla qui est arrivé sur Game Pass là cette semaine, je crois.
Et là, le truc, c'est qu'on en arrive
sur IE, c'est 14,99 pour IE Play Pro, c'est ça, qui est uniquement sur IE App, donc ça doit être leur launcher PC. Mais 99 euros par an. Donc si tu t'abonnes pour l'année, c'est quand même beaucoup moins cher.
Ça coûte moins cher, ouais, effectivement.
Leur IE Play normal, c'est 4 euros. Là, pour le coup, c'est vraiment bon marché.
Ce qui m'embête un peu, c'est que là, Ouais, ok. Ce qui m'embête un peu, c'est que là, on en arrive à quelque chose de similaire que ce qu'on a sur la télé, en fait, sur les abonnements de VOD. Avec aujourd'hui, si tu veux regarder absolument tout ce que tu veux, bah, t'es obligé de t'abonner à Paramount+, à OCS, à MyCanal, à Pass Warner, machin. Enfin, c'est interminable. Alors, comme dit Thomas, effectivement, et pour le coup, c'est encore plus vrai sur la VOD, t'as des gens qui vont s'abonner un mois au Passwarder pour regarder, je sais pas, House of Dragon, par exemple, qui après vont se désabonner. Mais sur un jeu vidéo, c'est un peu différent, surtout quand c'est un jeu qui va demander au minimum 50, 60 heures, 70 heures de jeu, comme ça peut être notamment sur un gros Assassin's Creed. C'est pas le même rythme, enfin, c'est pas la même façon de consommer que tu vois que juste une série que tu vas binger en une semaine et puis ciao, quoi. Donc je sais pas, je suis sceptique et puis surtout, j'espère. Alors, en vrai, moi je trouve que les systèmes d'abonnement de jeux vidéo c'est cool, tu vois, je suis content qu'on ait, parce que c'est vrai que ça peut faire de vraies économies, quand tu vois le Game Pass notamment, mais j'ai pas envie que ça devienne, enfin, que ça devienne le domaine, le modèle dominant, quoi. Il faut vraiment qu'on ait toujours le choix et c'est vrai que malgré tout posséder ces jeux, même si aujourd'hui t'achètes un jeu sur Steam, est-ce que tu possèdes vraiment, c'est un débat, mais posséder ces jeux c'est quand même bien aussi, quoi.
Alors oui, je crois que il y a des gens qui évoquent cette possibilité parfois. Et ça amène le débat sur, ou la question sur, est-ce qu'on possède vraiment nos jeux, qui est peut-être une question un petit peu différente. Je ne sais pas si on va se lancer.
Est-ce que ce sont les jeux qui nous possèdent? À méditer.
Dans le cas d'Assassin's Creed, pour toi, sans doute, mais...
Peut-être,
ah oui, là, complètement. Là,
j'aime bien, il y a un mime que partage... c'est qui déjà? Je ne vais pas dire de bêtises. Johan Bensemoun, sur Twitter, qui dit, mais si on ne possède pas vraiment les jeux, est-ce que le piratage, c'est vraiment de les voler? La question se pose. C'est Pantard hein, dont je parle. Mais c'est assez rigolo. Ah. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Hein. Est-ce que les jeux, on les possède? Est-ce qu'on achète des licences? Enfin, oui et non, et plutôt non en même temps. Mais,
bien sûr.
Mais oui, sur la question, est-ce qu'on pourra payer les jeux plutôt que les acheter, payer les jeux à l'unité, je crois que c'est un faux débat, ça va pas. On n'est pas on n'est pas du tout à l'étape où on pourra plus acheter ces jeux à l'unité. Ça n'a pas de sens vraiment de se poser cette question à ce stade, quoi. Mais... Ah.
Après, moi, je serais assez pour quand même une offre plus globale, tu vois, qui regrouperait, je sais pas, que des éditeurs se mettent d'accord pour faire une offre globale, genre que Microsoft te dise, genre Game Pass, ou par exemple sur la télé, encore une fois, je reviens dessus, moi j'ai une offre entre guillemets que je paye globale, alors que je paye un peu plus cher, mais qui permet d'avoir dans le même pack Canal+, Netflix, Apple TV, Disney+.
Alors fais gaffe à ce que tu souhaites, hein. Parce que le monde dont tu parles, c'est le monde des bundles de câbles d'il y a une décennie ou deux, qui existent encore d'ailleurs, où tu as des abonnements où on te réunit plein de chaînes dont tu ne veux pas, qui te coûtent 150 euros par mois.
Alors non, je ne parle pas de ça.
Alors non, toi tu veux le meilleur de tous les mondes, quoi.
Non, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je voulais, entre guillemets, ce que je voulais voir était à la fois sur Netflix, à la fois sur Disney+, à la fois sur Canal+, etc. Si je prends mes abonnements à un, c'est pas possible. Enfin, au niveau budget, c'est pas possible. Donc, effectivement, évidemment que eux, ils s'y retrouvent. Hein, c'est du marketing. Quand on propose une offre qui permet d'économiser 20 ou 30 euros par mois avec tout, je la prends. Ok.
Mais est-ce que t'es engagé sur un an?
Non, j'ai pas d'engagement.
C'est donc, tu peux t'arrêter quand tu veux. D'accord. Écoute, pourquoi pas.
Je peux m'arrêter quand je veux, effectivement.
Le problème.
Et elle est effectivement intéressante. C'est un petit peu plus cher, mais c'est vrai qu'avec la multiplication des services, t'as les bonnes séries qui vont un peu partout. Et du coup, t'es vite tenté de dire, ça devient compliqué. Et c'est vrai qu'en plus, là, ils auraient quand même récupéré Apple. Canal qui a Apple, qui a Paramount.
Après. Je pense que la vraie solution, ce serait que Microsoft rachète Ubisoft, comme ça on est tranquille.
Mais remarque, tu sais, là, on a le Ubisoft classique qui est inclus dans le PlayStation Plus Premium. On a le EA Play normal qui est inclus dans le Game Pass.
Ouais.
Tu sais, mine de rien, ce dont tu parles, ça existe déjà un petit peu.
Oui, c'est des partenariats, bien sûr.
Tu vois, c'est pas tout dans le même truc, mais... Bon, il y a quand même deux gros et puis les petits à côté qui sont... Le truc qui sera marrant, c'est si un jour Valve en fait un. Là, ça risque de dépoter un petit peu, mais bon, bref.
On imagine l'abonnement Steam.
C'est ça, l'abonnement Steam et tu vois, chaque éditeur ou développeur pourrait accepter de mettre ses jeux dedans ou pas.
Ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser, peut-être Thomas, t'as connu ça, c'est qu'à une époque, il y avait des comptes Steam dédiés pour la presse. Qui était des comptes, une sorte d'offre globale où tu pouvais accéder à tous les jeux absolument. Et c'était. Genre, il y avait peut-être deux, trois rédacs qui avaient ça en France et c'était le Graal, quoi.
Je sais pas si ça existe encore, j'imagine que non, mais déjà à l'époque où j'étais chez Blizzard, quand j'étais arrivé, j'avais un pote qui était dans la même équipe, Ross Atherton, qui était anciennement rédac chef de quel magazine ? Je sais plus. Et qui me disait, ouais, moi j'ai un compte, justement, Steam journaliste de l'époque, compte presse, qui m'avait été filé directement par Gaben Et c'était déjà à l'époque, en 2009 ou 2010, le Graal que personne ne pouvait plus obtenir.
Mais oui.
Donc vous imaginez bien que...
Mais maintenant, il y a prescription, mais à l'époque où je bossais pour le numérique, je squattais allègrement le compte presse de Gamekult qui en avait un à l'époque. C'était quand même bien pratique. Maintenant, bon, bah, je...
Détournement de biens sociaux,
c'est
voilà
maintenant,
la vérité
hein.
Qui éclate.
Bah, c'est, à l'époque, c'était Yukishiro qui m'avait filé l'accès, il était, tu vois, j'ai rien demandé, il m'avait donné.
Ça n'empêche, en plus, tu envoies les... Bon, en même temps, lui, il est plus dans le...
Bah oui, c'est pour ça que je dis ça.
Non, mais quand même, techniquement, c'était... Enfin, je ne sais pas si c'est un détournement de biens sociaux, parce qu'il n'y a pas d'argent... qui tourne,
ça,
ouais. Donc
ok. En vrai, j'en avais besoin parfois pour tester des jeux de manière technique. Enfin bref, on s'en fout.
Donc ça va, donc ça
le sujet.
Oui, mais oui, donc c'est vrai, c'était pour le boulot. Donc ça va.
C'est pour le boulot aussi. C'est aussi pour le boulot.
On nous dit dans la chatroom Half-Life 3 en exclu sur Labo Steam. Eh, hey, ça serait un truc malin.
Oh, alors là, s'ils veulent gagner beaucoup d'argent, ouais, faudrait faire ça. Ouais.
Bon, deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est les premiers accès à l'Early Access de Palworld. Eurogamer a fait une vidéo très instructive, qui sera d'ailleurs dans les notes de l'émission, enfin dans la newsletter évidemment, sur Palworld. C'est que je retrouve le nom de la formidable journaliste Zoé De Laurenti Light, qui a fait ce test. Et Palworld, la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler, c'est que c'est un jeu qui avait fait forte impression aux différentes présentations qu'on avait eues depuis peut-être 2 ans, 3 ans, parce que c'est un jeu dont le pitch est assez inévitable. Ah, je précise quand même, on parlait des abonnements, l'Early Access de Palworld, et donc Palworld, j'imagine, est inclus dans le Game Pass, en plus de Persona 3 Reload ce mois-ci. Palworld est inclus dans le Game Pass. Donc, si vous voulez le tester, vous pouvez. C'est quoi, ce jeu? Vous en souviendrez peut-être. Donc, il a été présenté à plusieurs reprises. Et c'est une sorte de Pokémon, sauf que les Pokémon qu'on capture, bon déjà c'est un très bel environnement 3D, enfin très beau, on va dire ça ressemble un petit peu à Genshin Impact.
C'est plus beau que Pokémon,
ça.
Mais en même temps la barre est pas très haute.
Ça c'est pas dur, c'est ça, c'est vrai exactement. et donc on a des sortes de Pokémon à collectionner, sauf qu'on se bat avec des armes, on les défonce et ils peuvent eux aussi prendre des armes et défoncer les gens. On peut les mettre en prison, on peut les mettre au travail à l'usine, sur le travail à la chaîne, enfin... C'était une sorte de coup de communication assez rigolo qui fonctionne, parce qu'évidemment, Pokémon, c'est le temple des petits-enfants mignons et des petites bestioles qui sont rigolotes. Évidemment, les mettre... Alors, la juxtaposition de la mignonnerie des créatures, parce qu'elles sont mignonnes, et le fait qu'elles aient un AK-47 dans les mains, forcément, ça faisait rigoler. Il se trouve que dans la review de l'Early Access que fait Eurogamer, en fait, cet aspect, c'est très, très, très anecdotique. Oui, on se bat avec les ennemis qui sont notamment des Pokémon avec des armes, des arcs, des armes à feu, etc. Mais après, le jeu en lui-même, c'est effectivement de la collection de Pokémon. Je vais arrêter de dire des Pokémon, c'est des Pals, qu'on va aller chercher dans le monde, dans un très bel environnement 3D, enfin très bel environnement, encore une fois, c'est juste un environnement 3D classique. C'est vu à la troisième personne, c'est assez dynamique. Ça ressemble presque plus à Genshin Impact, comme je disais, ou peut-être même à Fortnite, que à Pokémon. On peut donc récupérer différents Pals pour notre groupe, pour le gameplay de combat. Ils ont des capacités passives qui vont nous permettre de collectionner plus de ressources, ce genre de choses. On peut monter sur les pals et qui peuvent devenir certains d'entre eux nos montures, même des montures volantes, enfin ce genre de trucs. Dans le gameplay là de combat, il n'y a pas de quête ou ce genre de choses. Il y a des donjons, mais qui sont pas hyper incroyables. Mais par contre, en parallèle du combat, il y a aussi tout un aspect, l'autre pilier du jeu, c'est la construction de base. Ça fait un petit peu penser à même du Factorio, du Satisfactory, ce genre de choses, selon la reviewuse. Et donc, tous les PALS qu'on va récupérer, on va les mettre dans notre base à, pour qu'ils continuent à construire la base. Il y a des attaques qui vont arriver, des raids qui vont arriver contre nous de temps en temps. Enfin, c'est presque du survival, un type de jeu survival. Et puis, on peut élever les PALS et puis les faire se reproduire, leur filer ce qu'il faut à manger, bien s'en occuper, faire des spas et ce genre de trucs pour qu'ils soient contents. Il faut leur donner à manger. Ils peuvent tomber malades, etc., etc. Et puis, on construit notre base, on la fait grandir. Et là où c'est intéressant, c'est que dans les arbres de construction de talents, enfin de capacités, de technologies, eh ben, parfois, on a des nœuds qui sont bloqués. Et pour les débloquer, ce qu'il faut faire, c'est aller explorer le monde et découvrir de nouveaux PALS qui vont nous permettre de découvrir des nouvelles techniques, progresser dans la construction du monde. Elle dit qu'au départ, eh ben, il faut une vingtaine de niveaux, c'est pas rien, pour passer des constructions en bois aux constructions en pierre pour faire des fondations, etc. Donc, il y a vraiment cette histoire de construction de base qui est hyper important dans le gameplay du jeu. Le gameplay lui plaît. C'est plutôt, je ne vais pas dire que c'est surprenant, mais on aurait pu se demander, à force de voir les trailers, si ce n'était pas un jeu qui était un petit peu, pas une blague, mais qui surfait sur la communication des PALS qui se tirent dessus. Et on pouvait se demander s'il y avait un vrai jeu derrière. Là, il semblerait que oui, ça soit un vrai jeu, bien construit, réfléchi, en développement sérieux, qui a son intérêt. Donc voilà pour Palworld. Vous êtes prêts à vous lancer? Vous avez le Game Pass tous les deux, je suis sûr. Donc, c'est gratuit.
J'ai peut-être raté l'info, mais il y a du multi ou pas? Tu en as parlé?
Alors, je n'en ai pas parlé. Je ne crois pas qu'elle le mentionne. Ça me paraît très surprenant qu'il n'y ait pas du tout de multi, mais je crois qu'elle n'en parle pas.
Ce serait
pas
le type de jeu quand même qui pourrait trouver de l'intérêt en multi. Quoi. Mm-hmm. Donc voilà.
J'ai après, peut-être raté l'info, effectivement. En tout cas, on voit aucun moment, on ne la voit pas parler de multi, on la voit pas interagir avec d'autres dresseurs ou ce genre de choses.
Ouais.
Mais on nous dit dans la chatroom que c'est de la coop et pas de PVP. Super. Merci beaucoup, chatroom. Donc, effectivement.
Oui, ça semble plus logique, ça de la code pour le coup, mais ouais, d'accord. Non, mais moi juste, j'ai pas grand-chose à dire malheureusement parce que ça, globalement, ça coche tout ce que je fuis aujourd'hui dans le jeu vidéo Palworld. Donc, tout ce qui vraiment ne m'intéresse absolument pas, quoi. C'est-à-dire que la DA, la Genshin Impact, Fortnite, c'est vraiment pas mon truc. La chasse aux monstres à la Pokémon, merci. Le craft, bon, à la limite, pourquoi pas, mais pas dans ce genre d'univers. Donc, vraiment, je suis désolé, Patrick, mais c'est pas avec moi que tu vas
trouver ton truc,
le moindre enthousiasme, non.
Très bien. Il y aura de quoi te faire parler un petit peu plus tard. T'inquiète pas, j'ai quelque chose spécialement pour toi. Thomas,
je vais m'excuser aussi parce que j'ai regardé hier rapidement sur Twitch. Il y avait une streameuse dont j'ai oublié le nom, je m'excuse, qui avait reçu un code grâce à Nostalgique et qui, donc j'ai cliqué comme ça. Et alors, j'ai regardé un peu sa partie et puis elle est allée pendant une seconde dans les menus, j'ai failli faire un AVC. Et donc j'ai tout de suite, parce que, et alors, comme dit JK, en fait, c'est-à-dire que ça a l'air potentiellement, je pense qu'il y a des gens qui vont adorer, quoi, le côté élevé, les Pokémon. Alors déjà, moi qui suis vegan, je trouve bien qu'au moins il y a un jeu qui soit moins hypocrite que Pokémon, c'est-à-dire que là on montre vraiment la violence et ce qu'on inflige aux animaux, donc tant mieux dans un sens.
Rappelons que dans Pokémon, parenthèse les animaux de woke à part, se battre entre eux, hein. C'est officiellement
c'est dans le lore
du... C'est ça, ouais. Ils aiment faire des petits
et mais non, en fait, tous ces sous-systèmes de craft, ça doit être passionnant. Je pense que j'aurais 20 ans de moins, peut-être que je trouverais ça passionnant, mais je suis trop vieux aujourd'hui pour m'infliger des menus pareil. J'imagine déjà le nombre de combinaisons de touches qu'il faut pour...
T'aurais dû inviter des mecs de 20 ans, Patrick, dans cette émission aujourd'hui.
J'y penserai pour la prochaine fois, promis.
Le rendez-vous d'Aaron, là, c'est pas possible, quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez surprenant, cet amalgame de tout ce truc-là, qui a l'air finalement de plutôt tenir la route pour l'instant, d'après les premiers retours. Et à voir effectivement ce que ça va devenir à terme.
Ceci étant dit, pour avoir un tout petit peu de positivité, juste techniquement, je parle pas de DA, je parle de vraiment techniquement, ça a l'air plutôt solide, tu vois. Ça a l'air fluide de ce qu'on voit, ça bouge bien, c'est rapide, il y a une belle distance de vue, enfin, c'est propre, tu vois, dans son style, c'est propre en tout cas.
Pour rester dans les propos rigolos, faut quand même... Game Freak, quoi, réveillez-vous à un moment donné, peut-être.
Ouais. C'est vrai.
C'est, non mais voilà, c'est peut-être que au bout d'un moment, bon, je dis pas qu'ils vont tuer Pokémon.
Oui, non, je crois que.
Mais c'est intéressant de se dire que ce que non, ils ont de beaux jours devant eux, je me fais pas de soucis, mais en revanche, bon, voilà, c'est quand on voit des tentatives de voilà de booster un peu cette recette antédiluvienne et de mine de rien, voilà, je suis un gamin aujourd'hui, je vais aller vers quoi, un truc qui effectivement m'évoque Fortnite et machin, me fait faire du craft, est-ce que je vais voir Pikachu, je sais pas, mais c'est rigolo de mettre de, en tout cas effectivement techniquement ça a l'air, alors que c'est extrêmement ambitieux en termes de gameplay, de design et tout, ça a l'air de plutôt tenir la route.
Je crois que c'est l'info que de cet Early Access, au-delà du fait qu'à mon avis, il n'y a pas vraiment de concurrence même avec Pokémon, ce n'est pas le même produit, malgré les similarités. La vraie surprise, c'est que ça semble être un vrai jeu qui tient la route, quoi, ce qui n'était pas...
C'est pas juste une blague de trailer, quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça. Eh bien, écoutez, on va, puisque je n'ai pas beaucoup de succès avec ce Palworld, qui, à vrai dire, n'est pas forcément pour tout le monde et même peut-être pas pour grand monde, mais c'était intéressant de faire le bilan après, enfin, ou en tout cas de voir de quoi il en retourne après les nombreux trailers. Eh bien, on va enchaîner. Tiens,
est-ce que toi, tu vas l'essayer, Patrick, par contre, on ne t'a pas demandé.
Je ne pense pas, c'est aussi une question de temps. Et puis, pour être honnête, c'était vraiment, enfin, c'est la blague qui est rigolote et le fait que ça semble être un vrai jeu. Je laisserai passer l'Early Access, je crois. On va voir plus tard. Quoi.
Ça se trouve, dans 3 ans, ce sera le nouveau Fortnite et les gens écouteront ce podcast et diront « Putain,
écoute,
regarde-moi, c'est loser !»
Je suis complètement à fond sur League of Legends maintenant. Donc, rien n'est impossible. Tu vois, c'est vraiment... bon, bah écoutez, donc on va passer à la partie sérieuse de l'émission. On va donc passer au jeu. Le troisième sujet, bah, c'est un petit peu le jeu... qui nous aura occupé ces derniers temps. Et donc, c'est les jeux auxquels on va jouer. Avant ça, je vais vous rappeler le Patreon, patreon.com/rdvjeux, si vous voulez soutenir l'émission. Le lien est dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci, merci beaucoup à tous et à toutes. C'est important. Genre, pensez-y là. Tout de suite, vous êtes en train d'y penser ou pas ? patreon.com/rdvjeux.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En plus, Fanny n'est pas là, je ne suis même pas sûr de pouvoir, d'avoir le temps de retirer cette partie pour les Patriotes. Donc, je fais mentir mes promesses. Désolé. On enchaîne avec les jeux. Non, c'est pas ça, c'est celui-là, décidément. J'y arrive pas bien aujourd'hui. Les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, eh ben aujourd'hui, ça va être un jeu qui nous a occupé, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire Prince of Persia, The Lost Crown. Peut-être même avant, je vais vous poser une question comme ça, une question piège, je suis désolé. Ça fait le deuxième sujet qu'on évoque d'Ubisoft. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quelques années, Ubisoft était en plein dans une... controverse sur ses pratiques de management, etc. Et on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Pareil avec Blizzard, quand il y a 2 ans déjà, et j'en parle de temps en temps. Et moi, je me disais à ce moment, on ne va pas oublier, on va continuer à en parler. Et puis, quand on parlera de ces jeux, on le rappellera, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas que ça tombe, que la stratégie de on continue et on n'en parle plus, ça marche. Et du coup, là, on parle de 2 trucs d'Ubisoft. Est-ce qu'il faudrait en reparler ? Est-ce qu'il faut remettre le couvert à chaque fois sur Activision ? Je ne sais pas si ça a forcément servi à quelque chose, alors que j'ai insisté pendant longtemps. Je me pose la question de, faut-il reparler des problèmes d'Ubisoft à chaque fois qu'on parle d'Ubisoft ? Beaucoup qui y étaient attachés à cette question n'ont, je crois, pas vraiment évoqué du tout ce sujet quand ils ont parlé de Lost Crown. Je sais pas. Donc, moi-même, je me suis rendu compte que là, on parle d'Ubisoft. Ah, c'est super, machin, abonnement, Lost Crown, tout ça. Est-ce qu'on parle des problèmes qui ne sont pas résolus ?
Mon impression, c'est que, peut-être que Baby va être d'accord avec moi, c'est que Ubisoft Montpellier est un petit peu à part dans la galaxie Ubisoft. J'ai l'impression qu'ils ont été moins, entre guillemets, touchés par toutes les affaires qu'il y a eu. Il n'y a pas de choses trop qui sont ressorties de leur côté. Bon, je sais que Michel Ancel est parti peut-être à un moment ou à un moment charnière, on va dire, que c'est, avant que les choses se dérapent, je ne sais pas. Hein, mais voilà. Donc du coup, quand Prince of Persia est sorti, on l'a souvent identifié, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu en France, comme un jeu avant tout de Ubisoft Montpellier. Les créateurs de Rayman, les gens qui ont fait Beyond Good and Evil, donc ils ont un capital sympathie, je trouve, qui est très, très, qui est assez élevé, en tout cas en France. Ouais. Alors, je parle d'un point de vue français. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on en a moins parlé de ces histoires. Et puis, bah, faut dire ce qu'il y a. L'affaire, elle a éclaté il y a quoi? Il y a 3 ans maintenant, un truc comme ça, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, 3 ans.
Les choses se sont tassées. Des mesures ont été prises. Est-ce qu'elles ont été efficaces? Je ne sais pas.
Bah, c'est ça le truc.
Voilà,
on n'a pas vraiment
c'est
eu
l'actualité,
de...
quoi.
C'est le problème qu'on a, et bon, on n'est pas obligé de passer 2 heures dessus, hein, mais c'est le problème qu'on a avec Activision aussi, même s'il y a d'autres types de retours qui sont arrivés juste avant les vacances. Mais le problème, c'est que comme ils sont opaques et ils n'ont pas mis en place de rapports de parties tierces, d'audit de leurs pratiques, etc., on ne sait pas. Et donc, tu vois, c'est la politique de, pas de l'étouffement, mais enfin, on dit qu'on a fait les choses bien, ça serait super cool, mais je prends cet exemple à chaque fois parce que c'est l'un des exemples qu'on a eu. On a eu, enfin, en tout cas, de moi, ce que j'ai surveillé, sur certaines boîtes, je ne vais pas les renommer, mais des retours d'employés de boîtes qui disent oui, ça va mieux, oui, ça se passe bien, des audits, des machins. C'est pas le cas pour ces boîtes-là et notamment pour Ubisoft. Donc, je suis dans une situation où, bon, je sais pas. Tu vois, c'est les gens en interne ont l'air de dire ouais, bof, on a renvoyé quelques personnes. Mais en même temps, forcément, on entend les voix des gens qui sont pas contents. Les gens qui sont contents, c'est difficile. Peut-être qu'il faudrait aller poser la question à plein de gens, mais les gens qui veulent pas mal se faire voir. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas quelle est la solution. Je voulais juste l'évoquer.
Ouais, c'est compliqué. Après, effectivement, bah, il y a une bonne remarque dans la chatroom, quoi. C'est l'important, peut-être, c'est justement de rester attentif et de garder nos oreilles grandes ouvertes à ceux qui sont au sein d'Ubisoft. Aux différents mouvements, aux différents syndicats qu'il peut y avoir, être attentif à ce qui se raconte. Après, y a eu un affichage de beaucoup d'éléments d'inclusivité, il y a eu des départs quand même, mine de rien. On s'est débarrassé de quelques-uns, notamment au niveau du pôle éditorial, le fameux, qui a été quasiment entièrement renouvelé. Hein. Y a des personnes qui sont restées en place, hélas, qui n'étaient pas forcément directement impliquées, mais qui sont en tout cas suspectées d'avoir couvert des actes ou des personnes. Maintenant, effectivement, je pense qu'il faut rester attentif, garder les oreilles grandes ouvertes et peut-être laisser un petit peu le bénéfice du doute. Je vois qu'il y a quand même, moi, qui suis évidemment beaucoup, notamment sur LinkedIn, où ils sont assez bavards sur leur politique d'entreprise, de comment on vit à Ubisoft, qu'est-ce qui est proposé, ne serait-ce qu'aux personnes handicapées, aux personnes queer, etc. Je vois quand même des mouvements positifs de ce point de vue-là, une certaine mise en avant de ces choses-là. C'est de la com, mais c'est quand même des choses qui existent, donc j'ai envie de croire que ça marche un peu. Encore une fois, voilà, le pôle édito, je sais qu'il a été extrêmement rajeuni en plus. Non seulement ils ont viré toute la clique d'Asquette, mais ils ont été remplacés beaucoup par des jeunes. Je pense qu'on peut espérer que cette nouvelle génération aidera un petit peu, et puis que le temps aidera. Je pense que c'est un bon résumé de ce petit commentaire de la chatroom, qui est de dire restons attentifs, c'est ça le plus important. Et puis, que les gens, s'il y a des besoins de lancer des alertes, je pense que il y a du coup, on est là pour écouter. Quand je dis on, c'est les journalistes, et c'est les personnes sérieuses qui sont prêtes à relayer ce genre de propos. S'il y a besoin que ça sortira. Et voilà.
Je voulais pas juste évoquer quand Ubisoft est à nouveau dans l'actualité, ne pas du tout en parler. Je sais pas si on a une réponse claire, mais au moins on n'aura pas rien dit du tout. C'est peut-être pas plus mal. Il n'empêche, malgré tout ça, le jeu est là et le jeu est très bon et enthousiasmant. On ne va pas non plus faire la double punition aux développeurs et aux développeuses en ne parlant pas de leur, d'une œuvre d'art dont ils sont très fiers. C'est ce que disent... enfin bon, il n'y avait même pas question de ne pas en parler de toute façon. Et en plus, il est cool. Donc, on est sur Prince of Persia The Lost Crown. Je vais illustrer avec la vidéo test de jeuxvideo.com. C'est Carnby qui l'a fait, je crois. Ils sont plutôt contents du jeu. Ils lui ont mis 16 sur 20, je crois. Les Metacritic, c'est 86, si je ne dis pas de bêtises. 86, c'est ça exactement. Donc, bah, il avait des promesses. Il semblait cool et il semble avoir tenu ses promesses. Excellent Metroidvania, qui va peut-être pas séduire les gens qui sont pas fans de Metroidvania, mais qui fait très bien le job pour ceux qui sont intéressés par ce style de jeu. Il y a une démo qui est disponible depuis la semaine dernière que j'ai testée, mais vous deux, J.K. et Thomas, vous avez passé beaucoup de temps sur le jeu, donc je vais vous laisser en parler, vous le ferez certainement mieux que moi. Et honneur aux spécialistes, puisque quand on parle d'Ubisoft, on invoque la figure de Amaebi, eh bien tu es là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Prince of Persia de Lost Crown? Et puis qu'est-ce que c'est aussi?
Alors qu'est-ce que c'est? Donc, nouvel épisode de la série où on n'incarne pas le prince cette fois-ci. Alors moi, ça me fait, je vais faire une référence à mon livre, je vais faire référence à Assassin, parce que ça m'a fait penser aux origines d'Assassin's Creed, parce qu'il devait faire à la base un Prince of Persia, et le premier truc que le directeur créatif a eu comme idée, c'était d'imaginer qu'on incarnerait plutôt un garde du corps qui protège ce prince de Perse. Ce garde du corps, c'est devenu les assassins, c'est devenu Assassin's Creed, et je trouve ça rigolo aujourd'hui, en 2024, de voir qu'on n'incarne toujours pas le prince, enfin, on n'incarne plus le prince, et on se décale, entre guillemets, pour incarner un héros. En fait, donc, c'est Sargon qui est, je crois, le septième immortel, enfin, une sorte de guerrier d'élite, ils sont six ou sept, qui protègent la Perse, suite à l'enlèvement du prince, qui est emmené au mont Kaf. Qui est l'ancien endroit, l'ancienne cité royale de la Perse. Il va essayer de libérer avec ses camarades le prince de Perse, et puis il va se passer plein de choses, parce que cet endroit est assez mystérieux, notamment on sent que le temps, le fameux temps comme dans Les Sables du Temps de 2003, s'écoule de manière assez singulière là-bas, et qu'il y a différentes timelines qui s'entrechoquent là-haut. Et on va explorer cet immense palais, effectivement, là, tout de suite, on est vraiment sur du pur Metroidvania, c'est-à-dire qu'on est sur une carte gigantesque, avec plein de biomes différents, plein de zones du palais différentes. Donc tu vas être dans une salle très monumentale avec des statues, tu vas aller au fin fond de sorte d'égout prison, tu vas aller jusqu'au bord de la mer, tu vas aller, enfin vraiment il y a vraiment une zone de forêt, enfin c'est extrêmement varié, et toutes ces zones sont interconnectées avec, pour y accéder, le besoin généralement d'avoir un pouvoir spécifique que tu vas exploiter, etc. Donc on a vraiment une structure, symphonie, enfin on pense à tous les Metroidvania qu'on a pu avoir, donc que ce soit du Symphony jusqu'à du Ori, jusqu'à du Hollow Knight, bien sûr. Tout est un peu convoqué. Ce que je trouve assez brillant, en fait, dans cet épisode-là, c'est que on sent qu'ils ont mangé plein, justement, de tous ces récents Metroidvania qu'on a pu avoir, qui sont très, très à la mode, et qu'en même temps, ils ont réussi à le faire à la sauce Prince of Persia. On sent qu'on invoque des systèmes de jeu ou des éléments de game design qui fonctionnent et qu'on a vu ailleurs. J'ai même parfois vu du Céleste, par exemple, dans les phases de plateforme, avec ces trucs de pic, ce dash aérien pour ensuite rebondir sur un mur, etc. Et pour autant, je trouve qu'ils ont réussi à garder la personnalité et garder la marque Prince of Persia. Et du coup, le jeu émerge de tout ça. J'ai trouvé ça assez brillant. J'étais un peu mitigé au départ sur le fameux premier trailer qu'ils avaient montré pour présenter, je crois que c'était peut-être au printemps dernier, il me semble, la première fois qu'ils le montraient vraiment, avec cette musique très street et puis ce héros mis en avant, une DA un peu flashy, on disait où est-ce qu'on va, etc.
J'étais un peu surpris. Entre parenthèses, Sargon a comme tous les personnages noirs depuis c'était Killmonger dans Black Panther, il a le Killmonger hair. C'est marrant parce qu'on a Eddie Gordo qui arrive dans Tekken 8. On a vu un trailer cette semaine. Et il a lui aussi le Killmonger hair. C'est marrant parce que je voyais des personnes, justement, des Afro-Américains qui disaient « Ouais, enfin, on n'a plus qu'une seule coupe de cheveux. Maintenant, tout le monde a le Killmonger hair. » Et je comprends qu'ils soient frustrés. En même temps, c'est cool, quoi. Coupe de cheveux cool. Mais depuis qu'ils l'ont dit, depuis que j'ai vu cette remarque, je me rends compte que tous les noirs dans tous les médias, ils ont le Killmonger hair. Bref, c'est marrant, c'était une remarque comme ça. Mais oui, donc Sargon, il a plutôt un design très cool. Et moi, j'avais apprécié cet aspect genre moderne, avec la musique qui tape, etc. Toi, ça t'avait pas convaincu au début, mais...
Oui, ça m'avait un peu, ça m'avait un peu refroidi. Et j'y allais avec une certaine curiosité. Et j'avoue, je m'attendais pas à accrocher autant. Je trouve que le travail sur la maniabilité, sur tous les éléments de gameplay qu'ils peuvent mettre en termes de combat, de plateforme. J'ai été bluffé vraiment par le game feel, c'est-à-dire manette en main, la réactivité du héros, la rapidité avec laquelle tu le prends en main et tu apprends au fur et à mesure comment le manier. On débloque, il y a le côté Metroidvania, comme je disais, donc on débloque plein de pouvoirs différents. On va pas forcément en parler parce que ça fait partie aussi de la surprise. Et ces pouvoirs-là, ils vont t'aider pour la plateforme, mais ils vont également avoir un rôle dans le système de combat, c'est-à-dire qu'ils vont te permettre d'enrichir tes combos. Et j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant de voir à quel point le jeu arrivait à rajouter comme ça ces briques, et toutes ces briques s'enrichissaient les unes les autres pour créer vraiment un truc. Moi, j'avais vraiment du mal à lâcher la manette. Hein. Je l'ai fait hyper vite. Je l'ai fini là avant-hier, je crois. Et je l'ai fait vraiment en l'espace de 3-4 jours. Je l'ai fini en un peu plus de 17 heures, je crois. Pas à 100%. Hein. Il reste plein de trucs à développer, évidemment. J'ai vu qu'Antistar l'avait platiné hier, je crois. Bravo à lui, parce que franchement, c'est costaud. Mais... Et j'ai vraiment très très impressionné par le travail qui a été fait, parce que c'est vraiment très très complexe de réussir à combiner tous ces gameplays ensemble et faire en sorte que ça marche. À la fois il y a du challenge et à la fois il y a un truc vraiment, une sorte d'évidence quand tu commences à prendre en main, qu'il y a la mémoire musculaire, et plus ça va, plus tu te déplaces de manière fluide à l'intérieur de tous ces niveaux et tout. J'ai trouvé ça vraiment super réussi.
Il y a des vidéos sur Twitter qui montrent des personnes qui maîtrisent vraiment le gameplay, qui font des combats incroyables où tu as, j'imagine qu'il y a un mode entraînement et que c'est ça qu'on voit, où tu as donc un ennemi en face qui ne meurt jamais, et la manière dont tu peux enchaîner les capacités, les combos, tous les trucs pour... L'ennemi ne retombe jamais, ne retouche jamais le sol, et puis tu fais des coups, des attaques, des supers, des trucs qui te font t'envoler, tu envoies le bouclier, tu tires avec des flèches, enfin, ça va beaucoup plus loin que ce que j'imaginais, ça va très 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 loin, et pourtant le jeu, en tout cas au début, est très naturel et très accessible, comme tu le disais. Il y a une vraie... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste, bon, on va faire un Prince of Persia et on va faire un Metroidvania, ok, voilà, ça y est, il y a plusieurs zones et des pouvoirs. J'ai l'impression qu'il y a un savoir-faire, une maîtrise du gameplay qu'on n'attendait pas, qui est vraiment, vraiment mémorable et qui fait que le jeu sort du lot. Et il y a beaucoup de gens qui parlent déjà d'un des candidats au GOTY au bout d'une semaine, de deux semaines après le début de l'année. C'est ça, c'est cette excellence qui n'était pas obligatoire dans un jeu comme ça et que pourtant on constate.
C'est clairement le... Je pense que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur système de combat que j'ai vu dans un jeu de ce genre. Parce qu'en fait, le feeling, et je crois que c'était Moguri, Kevin, qui en parlait dans l'Origami, il a tout à fait raison, le feeling fait très penser à du Devil May Cry, en fait, en termes de ressenti, c'est-à-dire les combos, le fait que tu peux très facilement tirer des flèches avec un seul bouton, toujours avoir les ennemis en l'air. Et en fait, quand tu maîtrises bien le système de combat, c'est vrai que tu fais des trucs assez fous. Effectivement, t'as une sorte de maître qui, à un moment donné, qui va te proposer de t'entraîner. Et en fait, ce truc-là, en général, dans les jeux comme ça, moi, je le fais pas parce que c'est pas hyper intéressant, parce que t'apprends aussi naturellement en jouant. Là, en fait, non, tu te rends compte qu'il y a des combos qui sont presque dignes d'un jeu de combat, en fait, qui sont assez, assez fous. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que c'est à la fois un jeu qui fait preuve d'une très grande maîtrise dans le genre, qui va complètement satisfaire ceux qui aiment beaucoup le genre, donc qu'on fait tous les jeux qu'a cité Thomas, parce qu'en plus tu peux avoir du challenge si tu en veux, mais c'est aussi une excellente porte d'entrée pour le Metroidvania, puisqu'il y a des idées, on va dire, en termes d'interface, de progression, d'accessibilité, que je n'ai jamais vu dans un jeu de ce genre, et qui sont absolument géniales.
Oh, c'est remarquable.
Il y a une feature notamment qui est vraiment une des meilleures features que j'ai vues dans un truc de genre, parce que Souvent, ce qu'on reproche à ce genre de jeu, moi, notamment Hollow Knight, moi, j'ai des amis qui ont pas accroché Hollow Knight parce qu'ils me disent, mais je suis complètement perdu, j'ai arrêté de jouer pendant 4 jours, je savais pas où aller, enfin, c'était un enfer, et je comprends tout à fait. Voilà, il y a une fonctionnalité de, en fait, tu peux mettre des petits points d'intérêt sur la carte, sauf que ces points d'intérêt sont littéralement des screenshots de là où tu es, ce qui permet très facilement de te repérer, de te retrouver en te disant, bah là, cette porte-là, elle est fermée, il me faut une clé, bah, j'y retournerai, tu sais que tu y retourneras peut-être 5 heures plus tard, et c'est tout bête, mais c'est hyper pratique, quoi.
Mais c'est tellement simple, c'est tellement con. Et ouais, personne n'y a pensé avant, c'est le genre de feature qui se retrouver partout, quoi. C'est hyper
malin. T'as aussi dans les options que tu peux activer à volonté, désactiver un mode guidé, c'est-à-dire que tu appuies sur cette option, tu vas clairement voir où se trouve ton prochain objectif, sans forcément avoir le chemin à faire, mais au moins la direction où aller. Et en plus, j'ai jamais vu autant d'options de réglage de la difficulté. Tu peux choisir, par exemple, que les ennemis se fassent moins de dégâts, tu peux choisir de moins prendre de dégâts quand tu tombes sur des pics, mais tu peux régler en fait sur 5 niveaux différents et tu peux vraiment customiser ton aventure absolument à volonté. Et je trouve ça formidable parce que c'est un jeu qui peut être super dur, super hardcore si t'as envie que ce soit hardcore, et en même temps super accessible et super agréable à jouer si t'as pas envie de passer 3 heures à essayer de tuer un boss. Et enfin, je trouve ça formidable pour le coup qu'ils aient fait ça, parce qu'il y a vraiment, enfin, ils arrivent à toucher un panel de joueurs et de joueuses qui, à mon avis, est très large grâce à toutes ces options, quoi.
Donc, c'est pas forcément, parce qu'on voit effectivement dans les tests, dans les reviews, dans les vidéos, des passages où vraiment c'est hyper dur, quoi. Tu évoquais Céleste tout à l'heure, Thomas. Il y a des moments vraiment, t'as intérêt à pas rater tes sauts et à passer juste au bon moment entre les pics, machin. Ça a l'air quand même assez, enfin, pas très permissif, quoi. Même ces passages-là, il est possible de se dire, bon, bah, allez, ça va, je passe en mode facile pour ça, et tu peux les passer.
Alors déjà, et surtout, je trouve qu'il y a, comme je disais, quand tu commences à bien avoir le jeu en main, déjà, il y a vraiment un système très simple. Hein. Tu meurs sur des pics, voilà, pouf, il te reboot à l'endroit, au dernier endroit où tu touchais le sol. Donc, c'est pas grave. T'as pas à refaire un truc, un parcours de dingue, tu reviens, etc. Il y a beaucoup de raccourcis façon From Software, donc une porte qui n'est verrouillée que d'un côté, donc qui va te donner l'accès très rapide à ton point de respawn de sauvegarde. Donc, il y a tous ces trucs-là. Et ce que je trouve, ce qui moi m'a frappé, c'est que plus j'avançais, il y a des moments, j'arrivais effectivement dans des zones. Généralement, l'idée, c'est que t'arrives, il y a une grosse phase de plateforme, parfois très vénère, avec des pics qui vont dans tous les sens, tu cliques sur un machin, il faut aller sur un poteau qui tourne, ensuite tu dois sauter au-dessus de pics qui volent, et t'arrives des fois, alors même après 10, 12 heures de jeu, je me disais, mais vous êtes malade, dans quel univers je vais réussir à passer ce truc-là? Et 10 minutes après, je fais, mais bien sûr, voilà. Et tu passes le truc et tu sais même pas comment t'y arriver. Mais parce que, en fait, tu réessayes tout de suite. Tu meurs, bon, c'est pas grave, je te remets 10 secondes avant, tu ressoutes tout de suite. Et donc, tu commences à avoir vite le timing qu'il faut. Parce que, bah, voilà, généralement, c'est je dois sauter à tel moment pour ensuite saisir tel truc. Et en fait, tu es dans cette boucle et le gameplay est tellement satisfaisant que du coup, tu as tout de suite envie de te relancer et de te dire « Allez, cette fois, c'est bon, j'ai compris, je vais y aller. » Et je trouve que c'est vraiment... Il y a ce truc. Et ça, c'est très, très dur à avoir. C'est pas tant de... c'est pas tout de savoir régler la longueur d'un saut. De se dire, de réussir à donner envie, même malgré la difficulté. Et c'est pour ça que j'aimais bien invoquer Céleste sur ce point de vue-là, parce que j'ai un peu ressenti ce truc-là, de se dire... t'as envie de te dire je vais y arriver et en même temps le jeu est capable de dire de te remettre encore des surcouches de trucs où tu te mets à paniquer alors que t'as 10-15 heures de jeu dans les pattes et t'es encore à être intimidé par ce que le jeu te propose et pourtant tu le passes ça et tu dis waouh génial je suis trop fort et puis une fois que tu l'as passé là t'as un petit raccourci tu le casses hop ça te donne l'accès direct à ton petit point de sauvegarde
donc,
tu sors de ton stress t'es pas là à te dire si je meurs maintenant je dois tout recommencer c'est horrible etc quoi
ouais Malgré des challenges qui sont assez relevés, il y a vraiment très très peu de moments de frustration en fait. Il y a très très peu. Moi, je me suis jamais énervé en fait, parce que comme tu dis, il y a vraiment un truc. Il y a une fluidité, il y a une rythmique dans la progression qui. Voilà, t'es toujours encouragé à recommencer et franchement, c'est ça. Et c'est pas pour rien que derrière, c'est Ubisoft Montpellier. Enfin, tu vois, c'est Rayman Legends, c'est Rayman Origins. Ils savent faire du jeu de plateforme avec du challenge en fait, et tout en étant quelque chose qui soit attirant en fait et pas frustrant. Donc c'est vrai que c'est. Enfin, vraiment en termes de système de jeu, c'est d'une maîtrise absolument absolument dingue. La carte elle est incroyable. Enfin, je spoil rien, mais à un moment donné tu arrives dans le jeu où tu as trois points qui apparaissent sur la carte en te disant faut que tu ailles là pour continuer à progresser, et là tu te rends compte que les points, mais ils sont loin à un endroit de la carte. Tu dis mais attends, en fait la carte elle va jusque là, mais tu te dis c'est pas possible. Et enfin voilà, c'est assez fou. Et voilà, après moi j'ai trouvé quelques défauts, mais que je veux dire, malheureusement, sont un peu typiques chez Ubi, c'est-à-dire qu'au niveau du scénario, bon, là où j'en suis, j'ai complètement oublié ce que je dois faire, pourquoi je le fais, les enjeux. Je t'avoue que ça m'a pas marqué. Le début fait plutôt illusion. Je trouve que le début marche plutôt bien, parce qu'il y a pas mal de cutscenes qui te mettent bien dans l'ambiance, etc., avec notamment ces fameux immortels avec le prince, etc. Et puis au bout d'un moment, bon, tu lâches un peu l'affaire. Après, c'est pas très, dans un jeu de ce genre-là, c'est pas très grave, tu vois. Ça me gêne pas. J'ai plus été gêné par le doublage. Alors, en fait, au début, j'ai commencé à jouer en anglais, et le doublage anglais était vraiment pas terrible. Et ce qui est cool, c'est que tu peux jouer en persan, tu peux jouer avec le doublage persan. Ça, en termes d'immersion, c'est assez cool. Et après, bah, c'est vrai que de manière générale, le jeu est superbe en termes de décor, mais c'est vrai que la DA, le caractère design en général, qui fait très un peu comics, un peu à la mode, etc., j'ai un peu du mal. Mais bon, c'est pas un truc dont, enfin, encore une fois, c'est pas le caractère design que tu te prends pas dans la tronche toutes les 10 secondes, donc c'est pas très grave en fait. Donc c'est vraiment des petits défauts que je note, mais qui ont pas du tout entaché mon plaisir de jeu, quoi.
Moi, j'ai bien aimé, je trouve qu'il compense bien avec. Ce qui au départ me refroidissait un peu, c'est ces séquences limite manga complètement dingues pendant les combats, notamment où tu vas avoir des super coups qui vont passer en mode Dragon Ball, où ils vont te faire des caméas avec des effets visuels complètement dingues. Mais au départ, j'étais un peu circonspect, et en fait quand t'es dans le jeu, quand tu vas finir un boss ou même certaines parades que tu réussis face à certains ennemis, tu vas avoir une petite seconde de ton Sargon qui devient un peu Super Saiyan et qui défonce l'ennemi. Et je trouve que c'est vraiment, ça m'a vraiment étonné et bluffé en termes de mise en scène. C'est ultra réussi et ça donne une patate au jeu qui est vraiment étonnante, quoi.
Écoute, je pense c'est que du coup, peut-être ma dernière question, et vous pouvez ajouter quelque chose s'il vous reste quelque chose à dire, mais ma dernière question, ça serait: est-ce qu'il est à recommander à tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment un jeu pour les gens qui aiment les Metroidvania? Est-ce qu'il, dépasse son genre et son carcan?
J'ai un peu répondu tout à l'heure. Je pense qu'il est vraiment pour tout le monde, parce que c'est vraiment une super porte d'entrée. Enfin, je pense, hein, parce qu'autant, tu vois, tu mets un néophyte total devant un Blasphemous, devant un Hollow Knight, il va se dire ouais, c'est compliqué, dur, quoi. Ori, à la limite, Ori est un peu plus abordable, mais je trouve que celui-là vraiment en fait et c'est à la fois un défaut, à la fois une qualité. C'est-à-dire que peut-être qu'il manque un peu d'identité, peut-être qu'il manque un peu de folie, parce qu'en fait il se contente, je mets des gros guillemets, de bien reprendre tout ce qu'a fait toutes les bonnes idées de tous les Metroidvania qui sont sortis, et il le fait super bien. Voilà. Après, du coup, derrière, t'as peut-être un manque de personnalité, un manque de folie qu'il n'y a pas dans un Hollow Knight, qu'il n'y a pas dans un Blasphemous en termes de DA, etc. Mais c'est pas grave. Et du coup, je trouve que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée, et que justement, si vous voulez découvrir le genre, c'est probablement le meilleur candidat, quoi.
Très bien. Et puis, vraiment insister sur les réglages dont tu parlais tout à l'heure, les réglages de difficulté qui sont, tous les jeux, beaucoup de jeux devraient s'en inspirer. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir à ce point, parce que c'est vraiment, tu règles, c'est fou, quoi, au moindre détail, la force des ennemis, leur santé, et je trouve ça génial. Quand moi, je deviens bizarrement moins patient sur certains trucs, et ça m'est arrivé sur certains boss, qui sont parfois un peu velus, de me dire bon allez, c'est bon, j'en suis à mon cinquième essai, j'ai compris, tu m'as laminé, et du coup plutôt que de m'agacer, de me dire et de tryhard pendant des heures, je me suis dit bah allez, on va juste baisser un tout petit peu déjà la puissance de ses coups pour que je morfe un peu moins quand il m'attaque, et puis tu pourrais faire l'inverse, le contraire, baisser complètement sa santé pour te dire bah je vais le marave en deux secondes. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir se dire bon allez, sur ce pic de difficulté là, je vais l'émousser un petit peu pour que mon expérience de jeu soit pas frustrante. ça passe super bien, t'as pas l'impression de gruger le jeu, parce que derrière, voilà, il y aura des flashs de plateforme qui seront exigeantes, il y aura plein de trucs et tu pourras profiter du jeu. Donc ouais, ne serait-ce que pour ça, bon, faut avoir quelques petits atomes crochus avec le genre quand même.
Si tu détestes les Metroidvania, un Metroidvania, voilà, ça va
si
pas être pour toi.
Si t'aimes pas faire des allers-retours, parce que
si
bon,
si tu veux un truc hyper linéaire, oui, non, c'est sûr. Ouais.
Là, tu fais évidemment beaucoup d'allers-retours, tu retournes dans des zones pour aller explorer, etc. Il y a énormément de trucs à débloquer dans tous les sens, plein de pouvoirs qui sont cachés dans des salles secrètes, etc. Faut aimer ça, mais ouais, c'est un bon, une belle porte d'entrée. Ouais, je suis d'accord avec Chica.
Eh ben, il est disponible. En plus, il coûte seulement 50€, si je ne m'abuse. Peut-être même moins.
Il y a eu un débat sur le prix. Il y a eu un débat sur le prix quand même, parce que après, moi je suis pas vraiment. C'est vrai que souvent les Metroidvania, c'est des jeux un peu plus que typés indé, donc tu vas les trouver à 20-30€, tu vois. Là, 50€, bon, tu peux te dire pour un jeu qui a l'air d'être, tu vois, en 2D, mais bon, en vrai, par rapport à, bon,
enfin,
alors
3D,
je suis pas d'accord. Non, mais je suis absolument, non, mais bien sûr, non, mais je suis en train de dire un truc. Je suis pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Juste qu'il y a eu des débats là-dessus et que je peux comprendre, tu vois, mais derrière, quand t'as, je pense que pour le faire à 100%, c'est peut-être 40 heures de jeu, j'en sais rien. Et puis tout ce qu'ils proposent. Et moi, franchement, c'est le jeu Ubisoft, c'est le meilleur jeu Ubisoft auquel j'ai joué depuis hyper longtemps. Et pas mal de gens le pensent. Et je crois que le Metacritic, c'est un des Metacritic les plus élevés pour un jeu Ubi depuis bien longtemps aussi.
Il y a un autre aspect. Oui, donc je vais juste finir là-dessus. Il est effectivement à 50€, dispo sur toutes les plateformes. Hein. PC, il tourne bien sur Switch, semble-t-il.
Il tourne à 60 FPS sur Switch. Il tourne à 60 FPS partout.
Partout. PS4, 5, Xbox One, Xbox Series XS et même sur Amazon Luna. Donc, si vous êtes sur Amazon Luna, vous pouvez y jouer.
Allez.
Et puis, ça pose un petit peu. Alors, il y a eu chez Ubisoft une longue période de creux l'année dernière. Il y a quand même eu Assassin's Creed Mirage, bien sûr. Je ne vais pas pousser le vice jusqu'à ne pas mentionner ce jeu-là en la présence de Thomas. Mais on se demande si, du coup, ce n'est pas le retour de Ubisoft ou un début de retour d'Ubisoft aux affaires, parce qu'ils ont quand même été un petit peu absents. Et cette année, on devrait avoir Outlaws aussi, le Star Wars. Et peut-être un Assassin's Creed Red, et peut-être, enfin voilà, ce genre de choses. Thomas ne sait rien, évidemment. Mais
non.
Je suis quand même extrêmement curieux et curieux de voir la réception publique. Enfin, il y a la réception en termes de vente que ce jeu va avoir, parce que quoi qu'on en dise, c'est pas un Assassin's Creed, c'est pas un Far Cry, c'est pas un gros triple A qu'on met plein la vue, tu vois. Et c'est Prince of Persia qui a une licence qui est quand même pas plus aussi. Enfin, je veux dire, c'est plus une licence qui est aussi hype, qui est aussi prisée qu'avant. Donc curieux de voir, et j'espère que le public va être là, parce que rien que pour le taf d'Ubi Montpellier, ça il mérite d'avoir son succès, quoi.
Donc, Prince of Persia, The Lost Crown, déjà, potentiel GOTY, oui, non, potentiel GOTY pour vous ?
Je sais pas,
un 18 janvier, c'est un peu chaud. Mais par contre, mettez une croix rouge sur le truc pour pas l'oublier dans 10 mois.
On a souvent tendance à oublier les jeux qui sont sortis au début de l'année. Par contre, je crois pas avoir eu un aussi bon jeu aussi tôt dans l'année. Mais enfin, voilà, tu vois, c'est très rare d'avoir un truc qui
comme tu dis, cartonne autant, quoi. Donc, pas complètement à oublier pour la liste. Hein. Je ne dis pas que ça sera un GOTY, mais il sera peut-être dans la liste des top 5.
Il sera dans le top 5 ou dans le top 10. Il y a de grandes chances. Ouais.
À quoi d'autre avez-vous joué ces dernières semaines ? Alors, Thomas, tu nous parles de trucs dont je n'ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que
Lock
Digital et Paper Trail ? Alors, si Paper Trail, ça me dit quelque chose, ce n'est pas le...
Ouais.
Le Papers, Please pour enfants, je me souviens plus.
Non, c'est deux petits puzzle games parce que j'ai.
Ah oui, d'accord, Papers, Please.
Ouais, c'est voilà. Voilà. C'est un peu. En fait, c'est deux petits puzzle games. Je me suis amusé à. Parce que j'ai rebranché mon Shadow, là, donc je peux à nouveau accéder à Steam PC. Et puis du coup, je suis allé faire un petit tour dans ma liste d'attente, etc. Et puis j'ai vu qu'il y avait des petites démos qui m'attendaient. Donc je suis allé faire hier soir, pour m'amuser, des petites démos de puzzle games qui doivent sortir en 2024. Donc c'était aussi une manière de me projeter un peu dans cette année. Et puis donc je suis d'abord tombé sur la démo de Paper Trail, qui est un jeu par un petit studio anglais, genre je crois qu'ils sont trois, hein, qui s'appelle Newfangled Games. Et qui est que je trouve, enfin, avec une DA vraiment très très belle. Ça fait un peu penser, il y a un côté très très coloré, un peu livre pour enfants en fait. Et l'idée, c'est qu'on ait des tableaux dessinés que l'on peut, grâce à sa souris, plier. En fait, on a une sorte d'illustration carrée. Je peux emporter l'angle ou un des côtés du papier pour dévoiler ce qu'il y a dessiné en dessous, qui peut être un chemin qui va venir se superposer à l'illustration sur laquelle on était, et ainsi dévoiler une nouvelle route, créer un passage, etc. Et ça crée des petits puzzles tout mignons, pas si simples à terme, mine de rien. On sent vite qu'ils ont réfléchi un peu à plein de petites mécaniques qui viennent enrichir le gameplay. Et puis, il y a une petite histoire voilà, très conte pour enfants, en fait, qui nous est racontée par-dessus. Et j'ai trouvé ça très charmant. Voilà, il n'y a pas encore de date très précise. Il est toujours prévu pour cette année. Et j'ai trouvé ça très, très, très sympa. Paper Trail, et donc il y a une démo sur Steam accessible actuellement.
Également, il devrait sortir sur Switch au minimum, mais peut-être d'autres plateformes.
Il est prévu sur tout, console, Xbox, PlayStation, je crois même sur mobile à terme et tout. Donc, sur mobile, parfait, je pense, avec le tactile et tout ça, ça marchera super bien, je pense.
On nous rappelle dans la chatroom Hi-Fi Rush l'année dernière, JK. On avait oublié les
ouais, moi, j'ai pas accroché plus que ça, Hi-Fi Rush, mais c'était un. Ouais. Si, il y avait eu Dead Space, mais ça.
Il y avait le remake de Dead Space, ouais.
Qui était génial, que j'ai adoré, moi. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est ce soir, on aura la conférence de Microsoft avec peut-être un autre Shadow Drop. Ils vont en faire une tradition et tout le monde les attendra. Mais bon, peut-être pas non plus. L'autre jeu auquel tu as joué, Thomas, c'est Lock Digital.
Ouais. Pareil, vraiment un tout petit jeu, puzzle game tout bête. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à décrire. on est sur vraiment puzzle game, vraiment très très basique entre guillemets. On a des tableaux qui sont en fait des sortes de petits damiers que l'on doit entièrement repeindre en noir. Donc ils sont blanc avec des lettres dessus, et l'idée c'est de recomposer des mots qui sont des mots inventés d'une langue imaginaire qui fait partie du lore de ce jeu. Donc on commence, il faut aligner créer le mot lock, L-O-K, sur des grilles, et donc il y a plein de L, plein de O, plein de K, il faut les mettre dans le bon ordre. Quand on crée un premier mot, ça nous débloque une case noire qui permet de colorer, du coup, enfin bon bref, de créer tout un enchevêtrement, et donc il faut trouver dans quel ordre, etc. Je trouve ça hyper bien fichu, c'est tout mignon, c'est tout simple, c'est un petit studio, je crois, slovène, qui fait ça. Pareil, c'est prévu pour 2024, il y a également, donc c'était sur une démo Steam, donc allez jeter un coup d'œil. J'ai trouvé ça hyper réussi, tout simple, hein, vraiment, mais c'est le genre de petit jeu, tu vois, tu l'ouvres, tu fais 3-4 tableaux, tu te grattes un peu les méninges, et c'est pareil, ça devient vite un peu compliqué, parce que t'as d'abord ce mot lock qui te débloque une case noire qui permet de colorer ton damier, ensuite il y a le mot tlac, donc du coup qui s'enchevêtre, parce qu'il y a le L et le K qui sont en commun avec le lock, donc lesquelles lettres je dois choisir. Le tlac, lui, il colore deux cases adjacentes. Il y a le mot ta, donc qui du coup peut permettre de faire du tlac, mais qui lui va colorer toutes les lettres de la même couleur. C'est un vrai bordel, c'est impossible à décrire. Je préférerais avoir à décrire Cocoon, ce serait beaucoup plus simple.
Wow, okay,
mais voilà, enfin j'ai trouvé ça hyper malin, c'est tout mignon, et en plus j'aime bien ce côté, moi, les DA, on est vraiment sur du truc noir et blanc tout simple avec des petits personnages colorés. J'aime bien ce genre de DA vraiment simpliste. Il y a la musique qui est hyper cool, très ambiante, avec des nappes de synthé. T'es vraiment en détente et juste ça te creuser la tête. J'ai trouvé ça assez cool. Voilà.
Lock Digital, L-O-K. Il s'est remis à neiger, j'y crois pas. Mais c'est pas possible. À un moment, il va falloir s'arrêter là. J'ai eu du mal à sortir de la maison. J'espère que je vais pouvoir aller chercher les enfants tout à l'heure. Bon, bref. La Finlande. Lock Digital. Merci, Thomas. JK, en plus de Prince of Persia, j'ai ouï dire que tu as succombé aux sirènes de Mark Zuckerberg qui est venu chanter sous ta fenêtre. chanté. MetaQuest 3. Et toi, tu as craqué.
Ouais. Franchement, je me dégoûte des fois. Enfin, c'est pas triste, je te jure, c'est pas possible. Non, mais je plaisante. Alors, en fait, c'est rapide. Hein, je voulais vous faire un petit retour d'expérience. Je sais pas si on le voit, le casque là. Est-ce que Parce que,
alors, dans le podcast, voilà, pas trop, là. Mais dans la vidéo, oui, effectivement.
Oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'on était, oui, qu'on était à l'audio. Donc, oui, donc, j'ai acheté un MetaQuest 3 parce que, même si les choses se sont un peu tassées depuis, j'ai toujours été un défenseur et amateur de réalité virtuelle. J'avais, à l'époque où je bossais chez jeuxvideo.com, j'avais accès au MetaQuest 2. Et du coup, j'avais envie de me racheter un casque de VR. Et le MetaQuest 3, donc, qui vient de sortir, pour moi, ça semble être le meilleur candidat. C'est vrai qu'il est assez cher par rapport au MetaQuest 2 qui est toujours en vente. Aujourd'hui, le MetaQuest 2, il est à 299€. C'est le casque, vraiment l'entrée de gamme, on va dire, chez Meta pour accéder à la VR chez Meta. Là où le MetaQuest 3 est à 549€. Donc, il y a un écart de prix qui est quand même assez élevé, qui, je pense, qui est un peu trop élevé malgré tout, malgré les qualités du casque. Hein, j'aurais pas été contre un casque à 100€ moins cher. Et en fait, honnêtement, par contre, je suis quand même extrêmement content de mon achat parce que c'est le casque de VR le plus probablement léger, fin et confortable que j'ai eu à porter depuis très longtemps. Il est extrêmement, extrêmement chouette et il procure une expérience visuelle assez, assez cool parce qu'il y a plein de... Je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais en gros, la résolution est 50% supérieure, donc t'as quasiment plus ce qu'on appelle l'effet de grille. Donc, tu sais, quand tu voyais un peu le fond de la trame, là, c'est quasiment invisible. T'as un nouveau type de lentille qui fait que ce qui permet d'avoir un casque plus fin et une meilleure qualité de rendu, tout simplement. À l'intérieur, t'as une puce de chez Qualcomm, donc un Snapdragon, qui est deux fois plus puissante que la puce du MetaQuest 2. Ce qui est dommage, c'est que les jeux du MetaQuest. Donc, oui, je rappelle quand même que c'est un casque de réalité virtuelle autonome, donc tu n'as pas besoin de le brancher à un PC, à n'importe quoi, tu l'allumes, tu le paramètres, tu prends tes contrôleurs et il fonctionne. Mais l'inconvénient, c'est que les jeux qui sont développés aujourd'hui sont, étant donné qu'il y a le MetaQuest 2 encore sur le marché, doivent être compatibles MetaQuest 2. Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui tirent vraiment parti de la puissance de la puce. Il y a quelques mises à jour de jeux déjà sortis. Par contre, je trouve que c'est l'offre la plus complète parce que, au-delà du fait que tu as un catalogue de jeux qui est quand même assez chouette, là, j'en suis encore quand même à la phase où je teste plein de trucs différents, mais je teste à chaque fois pendant 20 minutes parce que j'ai envie de tester plein de trucs, donc je vais pas te dire, je peux pas te faire un retour d'expérience sur les jeux extrêmement complet, mais c'est le cas le plus complet parce qu'en plus de l'aspect autonome, tu peux le brancher sur un PC avec un câble ou même sans fil en Wi-Fi et accéder à tout le catalogue Steam VR, donc Half-Life Alyx, ce genre de jeux que tu as sur ton PC pour avoir des jeux là pour le coup qui visuellement sont hyper hyper impressionnants si tu as le PC qui va bien, quoi. Donc voilà, donc je dirais que c'est vraiment si t'as un peu de budget, parce que c'est aussi cher que, voire peut-être, je sais pas si le PSVR 2 est plus cher ou moins cher, je crois qu'il est à 500€ le PSVR 2, il me semble. Si tu as le budget, je pense que c'est quand même, et que t'as un PC aussi, je pense que c'est vraiment le meilleur choix aujourd'hui pour accéder à la VR, parce que c'est, en termes de confort, en termes de qualité d'image et de précision, notamment des reconnaissances de mouvement, c'est vraiment excellent. C'est très facile à utiliser. Et en plus, maintenant, il y a la réalité mixte. Donc là, on voit devant, il y a plein de caméras, ce qui fait que tu peux très facilement voir ce qu'il y a autour de toi. Il y a pas beaucoup d'applications qui en tirent parti pour le moment, mais même s'il y a quelques trucs assez sympas notamment de petits envahisseurs qui apparaissent dans ta maison, tu dois tirer dessus, etc. C'est rigolo. Mais ça va pas très loin.
C'est ça un peu. Voilà. Après, la grande question, parce que casque de réalité virtuelle, bon, c'est un bon casque de réalité virtuelle, ok, mais le MetaQuest 3, il apporte les fonctionnalités réalité augmentée du MetaQuest Pro, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher, mais tu es en train de dire, oui, mais ça sert à rien, en fait. Ou en tout cas, à ce stade.
À ce stade, il y a quelques expériences un peu sympas. T'as notamment un jeu qui s'appelle Lego. Alors oui et non, parce qu'il y a notamment un jeu qui s'appelle Lego Brick Tales, qui est franchement, quand t'es fan de Lego, c'est absolument génial. C'est la réalité augmentée où en fait il y a plein de niveaux différents, c'est un puzzle game basé sur des Lego. Donc t'as littéralement un plateau de Lego devant toi et en fait tu vas devoir t'as des défis, des casse-têtes, etc. à résoudre, et tu vas devoir utiliser des briques, etc. pour résoudre des casse-têtes, et c'est ultra bien fait, franchement c'est génial. T'as deux trois trucs comme ça qui sont chouettes, mais c'est vrai que cet aspect réalité augmentée, techniquement, il est super bien fait, mais c'est vrai que l'usage, il n'est pas encore là. Et ce qui était le cas aussi de la VR pendant très longtemps, aujourd'hui, dire il y a pas de jeu en VR, c'est faux, tu vois. Il y a vraiment un catalogue de jeux qui est énorme. T'as pas un GOTY par mois, c'est sûr, qui sort en VR, ça je suis d'accord. Mais quand t'as jamais fait de VR et que tu veux découvrir la VR, aujourd'hui, t'as suffisamment d'excellents jeux pour t'occuper pendant des heures avant de te lasser et avant de te dire, bon, ça y est, j'ai fait le tour, quoi. Donc voilà.
D'accord. Écoute, en tout cas, toi, t'es pas mécontent de ton achat. semble-t-il.
Non, franchement, non, je suis pas mécontent. Je persiste à penser que le casque est un peu cher. Donc, à la limite, si vous êtes intéressé, attendez les soldes, attendez une promo de 50 ou 100 euros, parce que 549 €, faut quand même les. Et je vais vous confesser un truc. J'ai revendu mon Steam Deck pour pouvoir m'acheter un MetaQuest 3. Tu vois. Donc voilà, parce que sinon, je me voyais pas l'acheter 500 € comme ça, enfin 550 € comme ça dans le vent pour un casque de verre, tu vois. Donc Et par contre, si vous voulez vraiment, si vous avez vraiment un budget limité, le MetaQuest 2 est encore tout à fait ok. Ça reste un super casque et c'est une très bonne porte d'entrée que pour la VR aussi, quoi, et qui est un prix beaucoup moins élevé, quoi.
Super. Donc MetaQuest 3 qui a fait céder JK.
C'est ça.
Je crois que c'est tout pour les jeux auxquels mes camarades ont joué. Pour ma part, j'ai joué à, je l'évoquais tout à l'heure, League of Legends, figurez-vous.
Non, jure.
Mais oui, c'est incroyable. Alors, j'ai fait la démo de Prince of Persia. J'en ai pas trop parlé parce que vous y avez beaucoup plus joué que moi, mais clairement, il est super cool. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit d'après ce que j'ai vu dans la démo, mais j'ai joué à League of Legends, la version PC et aussi Wild Rift, donc la version mobile, toujours, je ne vais pas en refaire beaucoup parce que j'en parle presque toutes les semaines, sauf que je suis arrivé, j'ai réussi à remonter platine, je suis presque platine, là je suis platine le premier rang qui est platine 4, je suis presque platine 3, on va voir si je pourrais monter avant la fin de la saison qui est genre ce soir. Mais oui, je me rends compte à quel point j'adore Wild Rift et j'y prends énormément de plaisir. J'ai aussi joué à League of Legends normal, notamment avec des gens du Discord. On se retrouve de temps en temps, une, deux, trois fois par semaine, le soir, pour faire une ou deux games, pour lesquelles je contribue à chaque fois à une défaite assez retentissante. Hein. Je suis en ce moment pas hyper bon sur Ligue normale. Bon, voilà, je suis sans doute un des facteurs déterminants de nos performances médiocres. Mais c'est toujours très fun. Et j'ai continué à regarder donc la LEC, la Ligue européenne, dans laquelle mon équipe favorite n'a pas forcément brillé. On verra ce qui se passe la semaine prochaine.
Quand ça veut pas, ça veut pas.
Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais la semaine prochaine, ça ira mieux. Donc voilà. Mais c'était un petit peu dommage pour. C'est la Carmine dont je parle. Je vais pas vous. Enfin, je vous ai pas un spoil. Si vous suivez déjà. Mais les deux premiers matchs, on s'attendait à ce qu'ils perdent. Le troisième, on s'attendait à ce qu'ils gagnent et ils ont perdu. Donc c'était un peu. Mais il y aura d'autres matchs. C'est le début. Ils viennent de commencer dans la vraie ligue des grands. Là, c'est la cour des grands. Donc, bon, allez, courage. On sait que vous pouvez y arriver. Et voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On passe à la partie news. La partie news et trailer plus rapide. Et c'est là qu'on fait intervenir JK. JK, il y a un jeu qui est pour toi. Un extrait de gameplay qui est pour toi. Alone in the Dark, il y a 13 minutes de gameplay qui ont été publiées.
Pour moi, c'est 13 minutes de trop parce que, en fait, je t'avoue que je l'ai regardé vraiment en diagonale parce que j'ai justement pas trop envie d'en voir ce genre de jeu. 13 minutes, je me dis. En fait, moi, d'ailleurs, j'ai toujours du mal avec ces extraits de gameplay de 13 minutes, quel que soit le style de jeu. Hein. Quand c'est un jeu que j'attends, tu vois, j'ai pas envie forcément de me spoiler.
Je vais pas te forcer à en parler, c'est juste que c'est ton. Justement,
non, mais alors, attends,
moi, j'ai l'impression de voir un Resident Evil des années 2000, tu vois.
Moi, je sais pas. J'ai quand même regardé quelques phases et je te dis encore une fois, j'ai regardé un peu en accéléré. Mais là où je suis assez rassuré, c'est sur l'ambiance, sur la direction artistique. Il y a l'air vraiment d'avoir un truc et c'est là que j'attends le jeu beaucoup. Je suis un tout petit peu plus sceptique sur les combats de ce que j'en ai vu, ce qui a l'air effectivement d'être un truc à la Resident Evil 4, 5, 6, etc. en TPS. Et puis Alone in the Dark, à la base, c'est quand même une ambiance un peu Lovecraftienne, donc j'ai pas envie qu'il y ait une surabondance de monstres. J'ai l'impression que c'est pas trop le cas, justement. Donc bon, j'ai un petit peu peur du système de combat, mais bon, je vais quand même me jeter dessus parce que rien que pour l'ambiance années 30 et Southern Horror, je sais plus comment ça s'appelle, ça genre l'horreur un peu du sud, Nouvelle-Orléans, etc., tu vois, ça me plaît beaucoup. Donc le jeu sort en mars, il me semble,
j'étais en train de checker la date, ouais c'est ça,
20 mars, voilà. Donc je suis quand même très curieux, quoi.
Smite, pourquoi j'ai un
si
lien.
Si je peux me permettre juste.
Bien sûr.
Comme on parle de Alone in the Dark, un petit coucou, parce que je fais un peu corpo du coup, parce que c'est mon éditeur, mais Sword Edition a sorti un bouquin sur Alone in the Dark de Nicolas Dénéchaud, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, qui a l'air vraiment dingue sur la saga, et notamment il a interviewé beaucoup des créateurs. Et il a même des documents de game design, etc. Enfin voilà, donc Alone in the Dark s'appelle Les dossiers Alone in the Dark aux origines du survival horror, de Nicolas Dénéchaud. Et il vient juste de sortir, donc évidemment un peu pour essayer de coïncider avec la sortie de celui-là. Et il a l'air vraiment génial, donc je voulais faire une petite parenthèse, un petit clin d'œil à un confrère de auteur.
Et vous pouvez aller sur le site de Third, vous pourrez y trouver par exemple un livre sur Assassin's Creed, un premier tome.
Prince of Persia également. En plus, c'est mon boss. Alors, Raphaël, Lucas, qui a écrit un livre sur Prince of Persia, donc c'est le moment de vous ruer dessus également.
Parfait. Deuxième news, Smite 2, vous vous souvenez de Smite? Il y a le 2. Smite, en fait, c'est l'un des.
C'est vieux,
ça date pas d'hier. C'est l'un des MOBA 3D qui est sorti, je sais pas, début 2010, dans les années 2010.
2011, 2002, 2010, 2012, un truc comme ça.
Et je pensais qu'il avait complètement disparu. Il y a un 2 qui a été annoncé, là, il y a quelques jours. Et maintenant que je suis un super pro des MOBA, je me dis, mais peut-être qu'il faudrait que j'essaye Smite 2 quand il sortira. C'est pas pour tout de suite, mais il va arriver bientôt. Il sortira sur toutes les consoles, tout ça, ça arrive. La Closed Alpha commence ce printemps. Donc, j'étais surpris de le voir arriver. Et puis, on a eu
même
aussi...
Même si je suis pas du...
Oui, vas-y, vas-y.
Je dis juste que, même si je suis pas du tout MOBA, j'avais joué un peu à l'époque de la sortie du 1. Et j'avais un bon souvenir, parce que j'aimais même justement le côté 3D, le côté plus action. Enfin, tu sentais que tu avais plus de retour dans ce que tu faisais. Donc, je vais pas dire que je suis content de voir un suite, parce que en vrai je m'en fous un peu, mais je me dis tiens, Smite, ça m'a rappelé quelques petits bons souvenirs quand j'étais journaliste chez Joystick à l'époque et contestais des jeux comme ça.
D'accord. Écoute, peut-être que tu te laisseras tenter par le 2 à un moment.
On sait jamais. Ouais.
En coop avec Patrick, là, ce serait beau ça.
Ce serait magnifique. Et depuis le temps que j'essaye de le convaincre de venir sur certains jeux. je crois que ça sera pas forcément Smite.
J'ai préféré dépenser 500 euros pour acheter un casque.
Bon, il y a aussi un trailer pour Frostpunk 2, qui est un jeu qui a eu son petit succès quand même, Frostpunk. C'est un peu l'angoisse faite RTS, Frostpunk.
Frostpunk, c'est pas le feel-good game, ça c'est sûr.
On dirait ton jardin, là. Hein.
Ah oui. Non, mais là, c'est la neige perpétuelle avec les voix qui t'interpellent, genre « Ah, Great Stuart, nous, ça va pas chez nous, venez donner de l'aide, est-ce que vous allez pouvoir faire survivre la ville ? Tout est
ça,
terrible. »
C'est Patrick quand il va voir son voisin en disant « Ah, j'arrive pas à déneiger devant ma maison, quoi. »
Mais beaucoup, j'ai beaucoup aimé le trailer qui mise beaucoup justement sur l'ambiance et le côté tu sens désespéré et tu sens que tu dois prendre chaque décision que tu prends dans le jeu peut avoir des conséquences dramatiques en fait si c'est pas les bonnes. C'était déjà le cas dans le premier. Moi, j'ai pas joué au premier, mais franchement, de ce que je vois là du 2, surtout qu'il sera dans le Game Pass, ça m'a un peu donné envie quand même d'essayer, quoi.
Ouais, c'est ça qui est à noter aussi. Effectivement, il sera dans le Game Pass. Mais bon, quand il sortira, c'est pas pour tout de suite. Encore une petite couche sur Tekken 8, c'est comme Assassin's Creed pour Thomas, moi il faut que j'en parle là en ce moment à chaque épisode. Il sort, on en parlera j'espère la semaine prochaine, il sort vendredi prochain, donc on y arrive là. Tekken 8, il faut que j'achète Prince of Persia tout de suite parce que j'ai Tekken 8 qui arrive pour pouvoir y jouer un tout petit peu. Et pour dire que le trailer d'ouverture, de l'opening trailer, le générique, je l'ai trouvé vraiment mauvais, pour le coup. J'ai trouvé qu'il n'était pas bon du tout. C'était assez terrible, j'ai trouvé très très moyen. Je pense que c'est des extraits du jeu en solo, simplement. Ouais. Et c'est complètement ridicule, je trouve.
Je suis un peu rassuré, Patrick, parce que moi, du coup, je l'ai regardé dans le conducteur. Et je me suis dit, oh là là, mais c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il va dire, Patrick? Il va dire que c'est génial, que c'est incroyable. Non, ça me rassure que tu trouves ça pas terrible. Okay.
Et comme quoi, tu vois, je suis d'une honnêteté sans faille et d'une objectivité infaillible. Même dans les trucs que j'aime, quand c'est pas bien, je le dis. Hein. Donc là, le trailer, il est vraiment très, très mauvais. Mais ça n'empêche pas que, bon, on en reparlera la semaine prochaine. C'est pas un trailer, c'est l'opening. Qui d'habitude, en plus, c'est hyper excitant, les openings de trailer de Tekken. Bref, ça n'empêche pas que le jeu fait beaucoup, beaucoup mieux que je ne pensais. Et on pourra en reparler, j'imagine, la semaine prochaine et pendant de nombreuses semaines à venir. Une nouvelle qui a empli de joie de nombreux joueurs, c'est le retour de Golden Sun avec une des versions mises à jour des deux jeux Golden Sun. Comment il s'appelle le deuxième? C'est Golden Sun et Golden Sun The Lost Ark sur Switch. Et c'est sur Switch, mais c'est pour le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. Golden Sun, c'est des RPG qui datent d'il y a très très longtemps, hein, dont les fans réclamaient le retour depuis des années. Sauf que là, bah, il faut avoir le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack pour l'avoir. Donc,
bon, un abonnement de plus, allez.
Un abonnement de plus, exactement.
Après, c'est pas le plus cher, hein. Je crois que c'est genre 25€ par an.
Alors, ça 25 reste, euros, voilà, c'est le normal. Je crois qu'avec c'est le Nintendo Switch Online. Le Nintendo Switch Online plus Expansion Pack, je crois que ça monte à 39 par an. C'est, pas, ouf, c'est bon, toujours pas le plus cher.
Ça va, ouais, c'est un peu plus cher. Rapport à un Game Pass, oui, bien sûr. Oui.
Et il y a aussi une autre série de vieilleries qui sont arrivées, les jeux Felix the Cat, enfin qui vont arriver, Felix the Cat et Rocket Knight. Pour lesquels j'ai vu plein de gens s'enthousiasmer, mais je savais pas qu'il y avait des gens qui étaient fans de... Alors, Félix le chat, déjà, bon, ok, pourquoi pas. Ça, c'est des jeux qui vont arriver sur Switch, PlayStation, et pareil pour Rocket Knight. Mais Rocket Knight, enfin, vous vous souvenez de Rocket Knight?
Rocket Knight, c'était rigolo.
C'est... Ah oui, ouais, Rocket Knight, bien sûr.
C'était un opossum avec une armure bleue, c'est ça, une sorte d'opossum avec une armure, ouais. Mm-hmm.
Ça avait l'air trop bien.
Bon, c'était rigolo, ouais. C'était vraiment l'époque de la 2D un peu flamboyante, 16 bits, tu vois, très colorée. Voilà, donc voilà, après, oui, c'est
de
pas
là à ressortir ça en 2024, voilà. Et à ouvrir le champagne, on va peut-être se calmer.
C'est
quoi.
Pas Mario Rayman non plus, tu vois.
Ouais, voilà. Bon, on est d'accord. J'étais surpris, mais bon, très bien, hein, si ça vous fait plaisir, c'est bien. Overwatch 2, on a eu une mise à jour de des développeurs qui déclarent, notamment par la voix de Aaron Keller, qui disent qu'ils veulent changer certains éléments fondateurs d'Overwatch, avec notamment des trucs comme le fait de donner, bon ça rentre un petit peu dans le détail du gameplay, mais donner un self-heal au tank et au DPS, ce qui je suis pas sûr de comprendre comment ça va marcher, parce que du coup ils vont devenir complètement indépendants, peut-être qu'ils peuvent pas, il est suffisamment bas le self-heal pour que ça n'impacte pas trop le gameplay, mais du coup si ça n'impacte pas trop, pourquoi le donner, enfin bref, mais ils ont l'intention de changer pas mal Overwatch 2 dans les mois et les quelques années à venir, et la saison 9 qui arrive en février devrait être le début de ces changements. Il y a d'autres choses comme par exemple le fait d'avoir des party frames, c'est-à-dire qu'on va voir sur le côté de l'écran les points de vie et le statut de nos coéquipiers, comme c'est le cas dans le PvE. Donc ils veulent rendre le jeu plus accessible, plus facile, etc. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'ai toujours beaucoup d'amour pour Overwatch, j'y joue régulièrement. C'est toujours sympa de faire quelques parties quand on a 10-20 minutes et qu'on n'a pas le temps de se lancer dans une partie de LoL pour laquelle il faut une heure. Donc voilà, je voulais mentionner des choses qui bougent un petit peu du côté d'Overwatch. Du côté de l'industrie, il y a Discord qui licencie 17% de ses employés. On se dit que bah, ça continue, hein, comme l'année dernière. Avec un bémol quand même, toujours dans cet esprit de contexte, Discord, ils ont quand même eu une croissance énorme depuis 2020. Ils ont multiplié le nombre d'employés par 5 depuis 2020. Et donc là, ils en licencient 17%. Donc, bon, c'est un ajustement qui est évidemment malheureux pour les personnes licenciées, mais c'est une discussion qui est compliquée parce qu'on me reproche de... Enfin, il y a des gens, notamment, qui a donné lieu à l'édito, mais qui me disent « Oh, enfin, c'est scandaleux de donner ce genre d'orientation à la discussion, machin. » Ils l'ont pas dit comme ça, c'est pas vrai. Mais oui, c'est pas minimiser la chose que de dire qu'ils ont une croissance de x5 depuis 2001. Et puis surtout... si on ne dit pas cette information, on n'a pas l'image complète de la chose. On ne peut pas comprendre le truc si on a juste une partie de l'information. C'est pour ça que quand on parlait des licenciements en 2023, je plaidais pour avoir plus d'informations, etc. Donc là, c'est une, dans le même esprit. Bah, oui, ce n'est pas la même chose si on vous dit « il licencie 17% » que si on vous dit « il licencie 17% » après une croissance de qui a, pendant 4 ans, qui a multiplié le nombre d'employés par 5. Ce n'est pas la même info.
Ouais. Donc, après, c'est aussi souvent la limite de ce genre de boîte qui grossit extrêmement vite. C'est-à-dire qu'au moins, au moindre orage, au moindre petit tremblement de terre, bah, ils sont obligés d'ajuster tout de suite. Quoi. Donc, c'est quand même les limites de l'exercice aussi. Quoi.
Évidemment. Et on a plein d'exemples. Mais si tu veux, c'est pas la même chose quand tu as une boîte comme ça qui est dans cette situation qu'une boîte qui a le même nombre d'employés depuis 5 ans et qui a qui fait des bénéfices et qui pour ne pas trop il y a d'autres contextes dans ces situations, mais bref, c'est pas la même chose dans les deux cas, on aura compris. GameStop met un stop à ses NFT. Ça, c'est
NFT, j'avais oublié que ça existait.
Bah oui, ça a été lancé en octobre 2022, donc à peine plus d'un an. On se doutait bien que c'était
ça
pas...
s'appelle avoir le nez creux quand même. Hein.
Oui. Fallait tenter, hein, en même temps.
Parce que déjà il y a un an, c'était déjà un peu mort le NFT.
Oui, c'est
donc,
ça quoi.
Franchement, ouais, c'est ça. Ouais.
Mais c'est marrant, GameStop, parce que c'est l'une des seules boîtes qui a eu l'autorisation d'investir les bénéfices de la boîte en bourse. Genre ils vont acheter des actions d'autres boîtes. Généralement, les boards, ça leur plaît pas trop quand tu dis bah, enfin nous on a une boîte, on développe la boîte. Là, ils savent tellement plus quoi faire parce qu'il y a eu toutes ces histoires de, vous souvenez, de GameStop dont l'action a monté parce que Reddit machin. Donc, ouais. Toujours dans les histoires de contexte, une étude hyper intéressante qui m'a été transmise par Capro sur le Discord, merci beaucoup à lui, sur les 14 000 jeux de 2023 sur Steam. Vous vous souvenez, j'en parlais la semaine dernière, en disant que bah, ça serait hyper intéressant d'avoir du contexte sur ces sujets-là et que ça serait cool d'avoir quelqu'un, c'est une opportunité, moi je disais, pour un journaliste par exemple, d'aller fouiller tout ça et savoir si effectivement il y a plein de jeux qui sont en concurrence, si c'est plus dur pour les développeurs, comment ça affecte les indés, comment ça affecte les AAA, etc. Et bien il se trouve qu'il y a une personne qui s'appelle, comment je ne vais pas te dire, je ne vais pas oublier son nom, Chris Zukowski, qui est on va dire un spécialiste du marketing de jeux vidéo, qui... conseille les développeurs et en particulier les développeurs indépendants sur les meilleurs moyens d'avoir de la visibilité sur Steam et ce genre de choses, qui a fait une étude statistique sur le truc. Alors il s'est basé sur des infos qu'il a obtenues de SteamDB qui lui ont permis de comprendre que ceci ou cela. Et je vous mettrai le lien dans la newsletter parce que l'étude est assez longue. Mais ce qu'il en ressort, qui est hyper intéressante, c'est que comme on l'imaginait, et ben en fait, l'augmentation vient beaucoup de jeux qui ne sont pas des vrais jeux vraiment viables, en fait. Il détaille la chose, c'est pas des vrais gros jeux, des vrais jeux commerciaux, même de développeurs indés. Et la croissance, c'est des jeux qui ont quasiment pas de reviews. Non pas parce que c'est des jeux de vrais développeurs qui n'ont pas réussi à obtenir des reviews, mais a priori, pour l'immense majorité, c'est des jeux de hobbyistes qui sont mis à faire des jeux eux-mêmes, pour le fun, c'est des shovelware, c'est des jeux de scam, genre des trucs qui recyclent des assets, ce genre de choses. Et le nombre de jeux, encore une fois, selon son estimation à lui, mais il connaît bien le marché, c'est son sacam, quoi. Selon lui, le nombre de vrais jeux indés, même s'il est hyper important, est resté stable depuis 2019 et même relativement depuis quelques années avant. Donc, c'est intéressant d'avoir ce contexte sur ces chiffres qui nous alimentent nos news et nos inquiétudes parfois depuis des années. Et ben, cette analyse semble montrer que, en fait, même si c'est très difficile, pour les développeurs indés, les choses ne changent pas tellement depuis, allez, selon ces graphes, on va dire 2017-2019, la situation est à peu près stable. À peu près.
C'est intéressant, tiens, il faudrait que je dise ça, oui.
Oui, bah écoute, si tu es abonné à la newsletter de Patrick, tu auras le lien. je vais te l'envoyer aussi ici, je vais le mettre dans la chatroom, mais le moyen plus simple, c'est la newsletter, évidemment. Évidemment, abonnez-vous à la newsletter, elle est cool. Une bêta ouverte qui arrive pour Discord pour Stormgate en février. Il y a le nouveau patch de World of Warcraft qui est arrivé. On peut faire du dragon riding partout. Il y a un nouveau patch pour Diablo 4. Il y a un projet qui est marrant. Il y a des gens qui ont recréé Heroes of the Storm dans StarCraft 2 en tant que mode. Ça s'appelle Resurgence of the Storm. Pendant que Heroes of the Storm existe toujours, c'est un peu bizarre. Mais là, ils l'ont recréé, ils veulent continuer le développement, ils ont besoin de financement. Mais c'est marrant comme idée quand même. Je suis pas sûr de pour pouvoir continuer le développement en fait, alors que Heroes a été.
C'est quoi bizarre. En gros, ils ont fait un mode pour StarCraft 2 qui reprend les bases de Heroes of the Storm.
Plus que les bases, c'est carrément Heroes of the Storm refait dans StarCraft 2 avec l'interface de StarCraft.
Oui, c'est un peu comme Dota à l'époque de Warcraft 3, quoi. Ils ont fait un délire. C'est marrant.
C'est rigolo. Stalker 2 a été décalé à septembre. Encore une fois, alors on sait que Stalker est développé par des développeurs ukrainiens, donc forcément, c'est pas facile.
Ouais. Mais tant mieux, tant mieux. C'est pas tant mieux, mais oui. On en a déjà parlé, je crois, mais il faut vraiment qu'ils prennent leur temps et essayer de développer dans les conditions les moins pires possibles. J'allais dire les meilleures, plutôt les moins pires, parce que c'est quand même compliqué. Et puis c'est vrai que ce qu'on en avait vu l'année dernière, en août à la Gamescom, c'était pas, malheureusement, c'était pas hyper encourageant. Donc. Prenez votre temps, pas de souci.
Foam Stars arrive le 6 février. Vous vous souvenez de ce que c'est que Foam Stars ?
C'est le Splatoon.
Ah ouais.
Exactement.
C'est le rip-off de Splatoon avec de la mousse, c'est ça ?
Exactement.
Sur la mousse.
Alors, il arrive le 6 février. Alors, c'est pas tout à fait le rip-off de Splatoon, mais un petit peu. C'est le Splatoon de Square. On se dit qu'au Japon, peut-être. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il sera dans le PlayStation Plus. Donc vraiment, ils ont compris leur truc, ils ont besoin.
Ouais. sinon c'est mort, sinon c'est mort.
C'est ça.
Bon, juste ça, j'en sais rien, je juge le jeu, mais bon.
T'y as joué ?
Bien sûr, oui, là je suis à 50 heures de jeu.
Non mais voilà, tu vois, t'y as même pas joué, ça se trouve.
Je l'ai platiné. Oui, non, bien sûr, bien sûr.
Bon, peu probable. Moi j'y ai joué, hein, je l'ai trouvé bon. Starfield, il y a une énorme mise à jour qui arrive cette semaine, donc il continue. Street Fighter 6 a vendu 3 millions de copies. C'est intéressant parce que c'est plus que le 5 et le 4 dans le temps donné. Donc Street Fighter 6 fonctionne pas mal. Et on n'oublie pas que Last of Us 2 Remastered arrive là, c'est demain, je crois, le 19.
Demain, ouais, demain.
Ouais, donc,
demain. Alors que c'est juste un remaster, hein, mais franchement, j'ai rarement eu aussi hâte de dépenser 10 euros, tu vois.
Ouais.
parce que justement, j'ai évidemment le jeu d'origine et la mise à jour coûte 10 euros. Ce qui n'est pas un prix, c'est un prix correct, surtout par rapport à tous les retours que j'ai eu, parce que le NDA pour les tests sont tombés il y a quelques jours et apparemment, le mode roguelite, là, dont j'ai oublié le nom, mais a l'air vraiment chouette. Et puis la mise à jour technique a l'air plutôt propre et l'utilisation des gâchettes adaptatives et des features de la manette de la PS5 on l'a vraiment chouette, donc moi j'ai vraiment hâte de refaire le jeu pour le coup.
T'es chaud pour te refaire tout le solo?
Je pense, ouais. Enfin, moi c'est un jeu que j'ai adoré, ça a été largement mon GOTY de l'année où c'est sorti, et je pense que j'aurais très envie de le refaire, même si j'attends en vrai j'attendrais surtout une version PC, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas, ils sont pas pressés de l'annoncer, donc voilà quoi.
Bah, ils vont attendre que tout le monde l'achète sur PlayStation 5 et puis dans quelques mois on sera sur PC. Ça c'est typiquement le genre de jeu qui est fait, qui existe parce qu'ils ont voulu le sortir sur PC aussi, tu vois. Enfin, celui-là, peut-être qu'ils l'auraient fait de toute façon, mais c'est complètement prévu pour ça, je pense. Et puis, c'est le mode sans retour qu'il s'appelle, ce mode roguelite.
Voilà, c'est ça.
Et puis, je mettrai aussi dans la newsletter un article intéressant sur le parcours de CD Projekt pour la réhabilitation de Cyberpunk. Sarah E. Needleman a fait un article intéressant sur le Wall Street Journal sur tout ça. Donc, je vous le mettrai dans la newsletter. Et je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Quel merveilleux moment passé en votre compagnie tous les deux. Merci de m'avoir accompagné. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet ? Commençons par Thomas.
Sur Twitter, toujours Amaibi _ et sur Blue Sky, Amaibi mais sans _. J'ai réussi à l'avoir celui-là. Et puis, éventuellement dans les librairies également, si vous aimez un petit peu Assassin's Creed ou un peu de curiosité avec mon livre sorti chez Third en septembre dernier. Voilà.
Qui s'appelle,
et puis sinon, qui s'appelle Les Secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014, L'Envol,
Mais que se passe-t-il après 2014, Thomas ?
Mais va savoir, Patrick, que peut-il se passer ? Voilà. Et voilà, que te disent mes cernes actuellement ? C'est très très mystérieux tout ça. Et puis bientôt du coup, voilà, justement, comme je suis soulagé d'un gros travail que j'ai achevé il y a quelques jours, je vais reprendre aussi du service parce que je me suis mis un petit peu en veille ces dernières semaines. Je vais reprendre du service sur Jeux Vidéo Magazine et puis chez Numérama également pour me remettre à piger tranquillement. Voilà, avec cette année 2024 qui s'annonce assez lourde. Donc c'est cool, plein de belles choses.
Merci Thomas. J.K., où es-tu avec ton... Tu es dans le métavers, on n'en parle plus assez du métavers. Ouais. Hein.
Oui, j'ai arrêté le hacking, le métavers, la matrice, quoi. Ça y est, quoi.
Non, mais je parlais de
des longues vestes en
cuir. Mais non, ton MetaQuest, c'est de ça que je parlais. Toi, t'es dans le métavers de Zuckerberg, c'est ça.
Effectivement, vous pouvez me retrouver sur je ne sais pas quelle appli, quel réseau social en verre pourri que personne n'utilise. Non, je ne sais pas. Non, mais à part ça, pour de vrai, si vous voulez entendre un peu plus de ma voix, il y a ZQSD, bien entendu, et puis surtout pas que ma voix, la voix de mes camarades. On a fait notre bilan toujours l'année dernière avec Silence on joue, ça vous en ai déjà parlé. On enregistrera le prochain numéro normalement la semaine prochaine. Donc voilà, la rentrée de ZQSD, c'est la semaine prochaine. Et puis je suis aussi sur Twitter. Alors Twitter, je suis plus très actif, je suis surtout sur Blue Sky si vous voulez interagir avec moi. J.K. Loret, J.K. L-A-U-R-E-T.
Sur Blue Sky et sur ZQSD.fr et le podcast ZQSD évidemment. Et donc les secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014, l'envol de Thomas Mereur. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. Vous avez dans les notes de l'émission les liens vers le Discord, où il fait bon vivre, on se sent bien, on s'amuse bien. Vous avez également les liens vers le Patreon, patreon.com/rdvjeux, pour soutenir cette émission, que j'espère vous appréciez. Et puis, la newsletter, évidemment, pour avoir plein de liens sur tous les jeux auxquels on a joué, comme ça, vous n'avez pas besoin de retenir tous les titres. Vous avez des articles cool que vous pouvez lire dans votre temps libre. Vous avez des bonus comme de la crème pour les mains. Ou alors, tiens, je vais le mentionner ici, mais ne le ratez pas, il y a un livre qui s'appelle « Africa is not a country », qui est le bonus de cette semaine pour la newsletter. Bon, du coup, vous l'avez déjà entendu, qui est formidable. C'est un auteur qui explique un petit peu plein de choses sur des idées reçues sur l'Afrique, sur sa formation, sur les raisons des situations géopolitiques aujourd'hui. Et je pense que j'en parlerai pendant très longtemps parce que c'est un livre excellent. Africa is not a country. Ça peut vous challenger vos même si on est si on pense savoir et connaître et comprendre et qu'on est progressiste, etc., ça peut vous faire changer de point de vue sur certaines choses et sur les raisons qui font que l'Afrique est comme ça. Bref, je vous laisse le découvrir. Africa is not a country. C'était mon bonus du bonus. Je vous remercie de nous avoir écoutés.
Si je comprends bien, je m'excuse parce que ça m'intéresse beaucoup. Oui. Mais si je comprends bien, par contre, il est que en anglais.
Oui. Alors, je crois qu'il est que en anglais, effectivement. Okay. Malheureusement, je suis désolé. Il faut comprendre un petit peu l'anglais, c'est vrai. Mais oui, si. À vrai dire, je dirais même plus loin. Si ça vous intéresse, c'est une lecture évidemment importante. Et même si ça vous intéresse pas, ça serait pas mal d'avoir la lecture parce que c'est vraiment. Même moi qui suis pas particulièrement. Enfin, je suis pas spécialiste de l'Afrique, au contraire. Et c'est pour ça que je voulais lire le livre. Mais on sait que la colonisation, ça fait ci, ça. Ah, oui, bon, mais quand même, enfin, là-bas, ils font tout le temps la guerre. On comprend pas à quel point. Ça a eu des influences, mais vraiment. Ouais. Et pourtant, je sais qu'on a foutu le bordel.
C'est clair.
Mais il y a ça, et puis il n'y a pas que ça. Il le fait avec pas mal d'humour. Enfin bref, c'est un très bon livre. Je crois que c'est tout. Merveilleux épisode. Merci d'avoir passé tout du temps en notre compagnie. Et on se retrouve du coup dans une semaine pour un nouvel épisode et pour parler de. Dites-le avec moi.
Non, Destiny, League of Legends.
Oui, Destiny 2, Overwatch. Overwatch.
Tekken 8. Tekken 8 la semaine prochaine, les gars.
Ok.
J.K., prépare tes mains.
Je suis pas là la semaine prochaine, moi.
Non, mais la semaine prochaine. En fait,
mais de toute façon, le problème, Patrick, c'est que je sais que tu vas en parler pendant 6 mois.
C'est clair.
Déjà de base, c'est acquis.
Il va nous faire un Tekken Patrick pendant 6 mois, on est mort.
Ah là là. Ouais, on est mort.
Et ben on se retrouve la semaine prochaine, j'espère
qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça va vite, ça va être vite vu.
JK, le jeu sort, je crois, le jeudi ou le vendredi. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Au pire, on en parle la semaine d'après quand tu reviens. Donc tout va bien,
bah
t'inquiète
oui, c'est ça,
pas.
Bah, je me réjouis d'avance, je me régale d'avance.
Merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
À bientôt. Salut.